Voilà, je propose que nous gagnions chacun sa place. N'hésitez pas à venir plutôt sur l'avant, parce que, comme vous le dira M. Spiegel, il souhaite vraiment établir un contact avec vous, et pour ne pas être trop éloigné pour ça. Cécile,
oui, oui, je sais, je suis obligée pour Sylvie.
Oui. Et puis ensuite, moi, je ferai une petite présentation générale. Et puis, oui, et puis je demanderai à Stéphane de venir à ce moment-là.
Après la présentation générale.
Ben, oui, non, mais c'est ce qu'il m'a demandé de faire.
D'accord. Ouais, mais il fait chier.
Ouais. Oui, c'est bon.
Bonsoir à tous, merci de prendre place, qu'on puisse commencer assez vite. Alors, bienvenue à cette première conférence de notre deuxième année de l'Université populaire et participative de Vendeuvre. Ce projet est le projet au départ de Denis Grison que je présente ici. Ah, je recommence. Bienvenue donc à cette première conférence de la deuxième année de l'Université populaire et participative de Vendeuvre. Ce projet est un projet municipal qui a été amené par Denis Grison, qui est à ma droite, et qui est porté par la mairie de Vendeuvre pour l'instant. Je remercie, à l'occasion d'ailleurs, Sylvie Crinchon, qui est là en tant qu'elle-même intéressée par la conférence, et en tant que représentante de Mathieu Klein, président du conseil départemental, et Stéphane Ablo, maire de Vendeuvre, qui prendra la parole tout à l'heure. Nous avons la joie de commencer ce cycle de conférences avec M. Joe Spiegel, que Denis va vous présenter ultérieurement, et de parler des villes en transition, sujet ô combien intéressant pour notre ville elle-même en changement, on l'espère.
Oui, c'est bien l'objectif aussi de cette université, c'est d'accompagner et d'aider les changements qui sont nécessaires. Alors, je ne vais pas parler très longtemps, mais c'est quand même le départ d'une deuxième saison, et c'est important de caler un petit peu les choses pour que chacun puisse se situer. Donc je voudrais dire d'abord que l'Université populaire de Vendeuvre, c'est plusieurs activités, c'est des conférences, un cycle de conférences, donc il y a 8 ou 9 conférences sur l'année. On a aussi des petites conférences débats filmées autour de thèmes scientifiques, c'est la philosophie en petits morceaux qui a trouvé son public et son succès l'année dernière avec les films de Philippe Thomine d'animation qui sont des petits bijoux. On a aussi, et c'est le cœur de notre vie, je dirais, d'université, des ateliers participatifs, parce que cette dimension participative est essentielle et nous y tenons. Donc on va avoir un atelier climat, un atelier alimentation qui ont déjà fonctionné l'année dernière et qui vont reprendre cette année. Un nouvel atelier sur robots, intelligence artificielle, société qui va démarrer cette année. Et puis deux autres ateliers un peu particuliers, un sur l'intergénérationnel et l'autre sur l'interculturel, dont d'ailleurs il y a ce soir une réunion qui retient quelques-uns d'entre nous du comité de pilotage, donc du petit groupe qui anime cette université. Et puis cette année aussi, donc innovation, on va ouvrir des cafés débats, donc essayer d'aller dans la ville, dans une brasserie, hein, ça sera à côté du vélodrome, la brasserie de la Fontaine, pour aussi faire venir les étudiants, faire venir un public plus large dans un lieu qu'on veut faire transformer en lieu de vie vendeupérien. On en a besoin à Vendeuvre, on a énormément d'étudiants, des milliers, entre 10 000 et 20 000, je n'ai pas calculé, mais c'est énorme. Et ces étudiants vont régulièrement boire du pot et faire la fête à Nancy. On voudrait aussi pouvoir les garder à Vendeuvre dans le cadre d'une pensée, d'une réflexion qui est une chose précieuse. Alors, je voudrais rappeler rapidement nos valeurs. Donc, nous sommes université Donc nous sommes dans un rapport au savoir, et c'est important, hein, surtout dans une période où on a tendance à être dans des grands anathèmes jetés les uns sur les autres sur des sujets polémiques, d'essayer de savoir ce qu'il en est de l'état de la science. Donc université populaire, donc pas d'élitisme, il s'agit vraiment d'essayer d'aller vers un public large, et pour ça d'ailleurs on va aussi essayer d'avoir beaucoup plus d'activités décentrées pour aller vers le public s'il est difficile de le faire venir à nous. Et participatif, comme je le disais, parce qu'il s'agit de construire ensemble des projets. Alors, le sens de cette université, c'est de faire face à la crise en offrant un lieu et des outils pour nous aider à devenir des acteurs éclairés de notre vie et de nos engagements, de ne pas subir des évolutions du monde dans des directions qu'on trouve calamiteuses ou parfois effrayantes, mais de reprendre en main un destin. Alors, un petit point pratique, vous pouvez manifester votre intérêt pour l'université, éventuellement vous inscrire aux ateliers, sur les feuilles qui sont disposées à l'entrée, et donc vous pouvez y passer à la fin de la conférence. Alors, et maintenant, je me tourne vers Joe Spiegel. Alors, je voudrais vraiment le remercier, mais énormément, parce que c'est quelqu'un qui a un agenda pas possible. Il est extrêmement engagé dans la vie publique, et dès qu'il a été sollicité, donc des choses comme ça se préparent des mois à l'avance, tout de suite il a donné son accord pour venir passer donc cette soirée avec vous, et je l'en remercie énormément. Donc Joe Spiegel, il nous vient de l'autre côté des Vosges, de Kingersheim, qui est une ville donc à côté de Mulhouse, dont il est maire, et où il mène une expérience absolument remarquable depuis déjà une quinzaine, enfin même plus, parce que tu es maire depuis 1989. Et c'est au point de vue de la démocratie, la participation, c'est tout le sens de son exposé, donc je ne vais pas m'arrêter, c'est absolument exemplaire, et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à ce qu'il soit là ce soir. Mais c'est quelqu'un qui est aussi engagé au niveau de la métropole mulhousienne sur la transition énergétique, sur les réalisations d'éco-quartiers dans sa propre ville, donc qui recouvre très largement un petit peu tout ce que nous voulons mettre dans notre transformation de ville ici à Vendeuvre et dans l'agglomération nancéenne. Alors pourquoi est-ce si précieux qu'il soit parmi nous ? Eh bien parce que voilà, donc nous voulons être ville en transition, et Joe a insisté sur cette dimension de l'engagement citoyen. Il n'y a pas de transition si les citoyens ne sont pas associés et très en amont et dès le début des projets, pas seulement pour cautionner ou être informés tout à la fin. Donc ce qui est décisif, c'est de pouvoir susciter une véritable adhésion des citoyens, et c'est ce qu'il a réussi dans sa ville. Alors, ces outils dont il nous parlera s'appellent États généraux permanents de la démocratie, Maison de la citoyenneté, Conseil participatif. Nous avons beaucoup à apprendre de lui. Donc je voudrais lui passer la parole, mais d'abord inviter Stéphane Ablot pour que nous aussi nous soyons vraiment dans cette mouvance et qu'il nous aide à accompagner cette aventure de l'UP2V. S'il veut venir dire deux mots, ce serait avec grand plaisir et un honneur pour nous.
Donc simplement pour dire vraiment quelques mots très rapidement, Denis, Carole et puis toute votre équipe, un grand merci donc pour poursuivre cette belle expérience. Et puis Jo, nous sommes très honorés donc de ta présence ici à Vendeuvre, parce qu'il y a des enjeux qui sont importants, ceux de la démocratie participative. Nous avons mis en place ici à Vendeuvre des conseils de quartier et nous faisons en sorte qu'il y ait le maximum de participation des habitants. Il y a dans la salle Manu Donati, qui est l'adjoint délégué à la démocratie participative, et nous avons beaucoup de choses à apprendre. Nous considérons qu'il faut poursuivre et qu'il faut aussi que nous puissions nous inspirer des expériences qui fonctionnent, parce que pour nous, la démocratie participative, c'est pas simplement quelque chose qui joue sur la forme, mais au contraire, on aimerait aller dans le fond des choses. Et c'est vrai que les habitants qui sont associés au projet, à la réflexion, sont d'autant plus satisfaits qu'ils en sont les porteurs, qu'ils ont été vraiment associés en amont, en anticipation de la réalisation des projets. Et il n'y a rien de plus efficace, justement, que de faire en sorte qu'il y ait une adhésion collective, une appropriation des projets qui sont mis en place dans une ville. Et nous savons que ton expérience sera pour nous, ce soir et pour notre avenir, un véritable éclairage. Parce que, encore une fois, nous sommes bien loin d'y être arrivés ici, même si nous avons mis en place des dispositifs avec une relation sincère avec les habitants. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc merci, et puis nous serons très attentifs à tes propos ce soir.
Merci beaucoup. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Stéphane. C'est clair que la démocratie, ce n'est pas d'abord une technique, c'est d'abord un état d'esprit. Et tout commence par la capacité du maire de travailler un rapport modeste au pouvoir. On ne peut pas susciter le pouvoir d'agir des citoyens si le maire, d'une certaine façon, ne s'efface pas par rapport à la question du pouvoir, même s'il doit être au cœur et en capacité d'impulser ce mouvement qui crée du désir démocratique. Donc je voudrais vous saluer, vous toutes et vous tous, chacune et chacun d'entre vous, parce que votre présence est un bel encouragement. Peut-être je vais parfois m'emporter dans mes propos parce que j'ai quelques convictions qui m'animent, mais croyez bien, je viens avec beaucoup de modestie parce qu'il n'y a pas plus difficile que de changer le cours des choses, d'aller contre la logique actuelle, ultralibérale, individualiste, pour essayer de créer des espaces d'espérance où les hommes sont des acteurs, prennent les choses en main et que le vivre ensemble constitue la trame même de la démocratie. Je voudrais vous remercier, chacune, chacun d'entre vous, les élus ici présents, les conseillers départementaux, mon ami Laurent Troglic, qui est président de la communauté commune de Pompée, les amis d'Esprit Civique, qui essaient de réactualiser le christianisme social. Et puis, j'ai un peu d'émotion ce soir, parce que je reviens dans un territoire où j'ai fait mes études de prof d'éducation physique, où j'ai rencontré mon épouse. Nous avons vécu à Lacsou et nous avons rencontré des amis qui restent des amis, même si pendant 40 ans, je ne l'ai pas revu. Je salue Angelo Argenton, de la même promotion. Nous avons vécu à Mulhouse l'année préparatoire, une année folle, à la fois d'anatomie, de physiologie, de sciences de l'éduc. Et puis nous avons réussi ensemble notre diplôme de prof d'éducation physique. Je crois que c'est la première fois que j'ai réussi à marcher sur les murs verticaux, tellement j'étais content. Je suis enfant de cheminot et donc modeste. Et réussir l'ascenseur social d'être prof, pour moi, c'était énorme. Donc je le dis ici avec beaucoup de modestie. Et si je parle de ce cursus d'étudiants, c'est que nous avons été marqués, je pense que je peux mettre Angelo dans le coup, par notamment les sciences de l'éducation. Il se trouve que les profs DPS, souvent on les voit comme des musculeux, comme des corps bien faits, et peut-être pas trop bien avec des têtes bien faites, sauf que c'est quand même une sacrée formation, la prof d'éducation physique, comme la formation des instits. Et nous avons beaucoup travaillé sur la pédagogie, moins sur l'activité sportive, qui n'est jamais qu'un moyen à l'usage éducatif. Et il y a des gens qui m'ont beaucoup marqué, Jean Piaget, psychogénéticien, Célestin Freinet, Maria Montessori, et je pense qu'ils ont dû m'influencer parce que la démocratie de participation et l'état de démocratie, ce que la pédagogie active est à la pédagogie. Comment mettre l'enfant au cœur du processus d'apprentissage et comment mettre le citoyen au processus de la décision, c'est la même chose. Être acteur. Un mot sur mon parcours. Pour expliquer ce que je vais dire, peut-être, je suis maire de la commune de Kingersheim, 13 000 habitants près de Mulhouse depuis 1989, dans une ville très majoritairement qui vote à droite aux élections nationales, ce qui veut dire que j'ai réussi à rassembler des gens dans des considérations métapolitiques et dans l'approche du concret, et de les mettre en situation. Je crois que le local, à condition qu'on ne le confonde pas avec le bocal, constitue la chance d'un paradigme démocratique. Je ne crois pas du tout aux institutions, aux lois qui vont changer, même s'il y a des lois institutionnelles qui devront changer, notamment sur le mode électoral. Je crois que c'est localement, au plus près des gens, qu'on peut, avec les citoyens, construire un nouveau paradigme démocratique. C'est ma conviction première, j'y consacre tous les jours, avec mes équipes, avec les collaborateurs. Sans l'adhésion des collaborateurs, on ne le fait pas. Et avec, maintenant, plus largement, une assemblée qui s'appelle l'Agora, j'y reviendrai tout à l'heure, qui a le rôle de conseil communal de la démocratie, qui impulse, organise, coordonne et évalue toutes les séquences démocratiques qui sont mises en avant et mises en exergue. Nous avons actuellement 24 séquences démocratiques très différentes sur les 3 prochains mois, planifiées par le conseil communal de la démocratie. Je suis aussi un militant de la coopération intercommunale et je suis très content de la présence de Laurent. Je trouve que l'intercommunalité, c'est un peu la révolution silencieuse dans ce pays. Et je crois beaucoup à cela parce que ça fait appel à une valeur et un verbe d'action qui s'appelle coopérer. Et je trouve que la coopération, contrairement à l'affrontement, est sans doute la dimension la plus exigeante de la démocratie, être capable de coopérer. Et quand l'intercommunalité est fondée sur des principes tels que la subsidiarité, confier à l'échelle supérieure ce qu'on ne peut pas faire soi-même et qui relève du principe de responsabilité, je dis oui. Quand l'intercommunalité, c'est plus de solidarité entre les communes riches et les communes plus pauvres, je dis oui. Quand l'intercommunalité, c'est plus de lisibilité, eh bien, je dis oui. Et c'est dans cet esprit que, ayant présidé une communauté intercommunale, de coopération intercommunale du bassin potassique, qui est une intercommunalité de reconversion écologique, économique et sociale d'un territoire, lorsque je me suis rendu compte qu'on a épuisé toutes les ressources européennes, nationales dans le contrat plan, que nous avons réussi avec les mines de potasse à fermer les mines de potasse, à faire en sorte que tout le monde puisse s'inscrire dans une démarche d'avenir, alors un mercredi, au mois de juillet, j'ai réuni tous les élus, tous les mercredis on se voyait. On était 12 maires et on a réussi à travailler beaucoup ensemble. Et sans prononcer le mot de Mulhouse, parce que la ville-centre fait toujours peur. Et j'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, on doit être capacité de réfléchir plus loin et de se poser la question de l'organisation des pouvoirs locaux. Quelle organisation la plus efficace au service des habitants, au service du territoire et au service du bien commun? Mesurer ces trois choses, elles sont liées. Si c'est que les habitants, ça peut être du clientélisme. Si c'est le bien commun, ça peut être éloigné des habitants. Il y a une pédagogie de lien, de fertilisation entre l'habitant, le territoire et le bien commun. Et c'est ainsi que nous avons renforcé l'agglomération au bénéfice des habitants qui n'avaient pas de services, qui ne pouvaient pas se payer du périscolaire, de la propriété urbaine. Et l'intercommunalité de Mulhouse est née à partir de là. Avant, c'était une petite intercommunalité de la ville-centre, quatre villes suburbaines. Nous sommes venus avec 10 communes pour renforcer cela et ça crée un mouvement de renforcement de l'agglomération. Je dis ça, encore un mot, pour dire que j'ai été longtemps conseiller régional puis conseiller général. Je connais donc tous les échelons. Et j'ai milité étant homme de gauche et ayant refusé une posture politicienne par rapport au président de droite qui a proposé un référendum sur le Conseil d'Alsace unique, j'ai milité pour ce Conseil d'Alsace unique. Comme j'aurais milité pour une autre réforme territoriale et régionale que l'on a connue, qui est une réforme strictement technocratique. Je le dis parce que j'ai mal pour ce gouvernement que j'essaie de comprendre. Mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables. La réforme des régions XXL, même si j'ai plaisir à travailler avec les Lorrains, qui sont les, voilà, mais le Grand Est, l'étendue plutôt que le processus, ça pose problème. Et j'aurais aimé que les politiques au niveau national, au lieu de jouer un peu le saupoudrage, le notable qui est en quête de pouvoir, sans son territoire, qu'ils puissent travailler sur un référentiel qui prenne en compte trois ou quatre choses qui nous habitent les uns et les autres. La première, qu'est-ce qui peut suggérer une réforme territoriale, bloc local, régional, autre que l'idée que comment organiser une organisation plus lisible, qui fait quoi ? Plus cohérente, moins d'empilement, plus efficiente en matière de dépenses publiques. Qui aurait pu refuser une démarche à partir de ça ? Comment utiliser le mieux possible l'argent public ? Et je ne suis pas sûr que ce qu'on a fait aujourd'hui réponde à cela. La deuxième question qui est importante, c'est le sentiment d'appartenance. Je ne suis pas du tout dans une dimension identitaire, je suis dans une dialectique identité-ouverture. Mais je vois quand même qu'aucune réforme ne peut fonctionner si elle ne parle pas au cœur et au vécu des gens. Et si elle ne correspond pas à des territoires vécus. Pour moi, le territoire vécu, c'est très important. C'est la plaque pivot entre le civique et le politique, entre le personnel et le collectif, entre le local et le global. Et c'est là qu'on peut engager des transitions fortes, à la fois personnelles et collectives, parce que je pense qu'il n'y a pas de changement en profondeur sans transformation collective et sans transformation personnelle. Regardez sur la question climatique, c'est à la fois la sobriété qui appartient aux habitants qu'autant que la substitution énergétique qui appartient à des politiques publiques ou privées. Troisième chose, nous avons besoin de pouvoir d'agir au niveau local et donc de compétences transférées des moyens. Nous n'avons pas besoin de grande étendue. Vous avez des lender qui sont petits mais qui sont puissants parce qu'ils ont des compétences qui permettent le pouvoir d'agir. Puis dernier élément, c'est pour arriver au sujet, quid de l'exigence démocratique? Quel poids pensez-vous que peuvent avoir les élus régionaux de base par rapport à la technostructure? Et je ne critique pas les techniciens, simplement quand le pouvoir est abandonné par les politiques, c'est la technique qui prend le pouvoir et qui prend des décisions. Quel est le rôle et la place des citoyens dans un grand ensemble comme le Grand Est? Quelle est la place, comment peut-on construire des processus de co-construction lorsqu'il y a tant de distance entre le haut et le bas? Et donc, je pense que si j'aborde cette question, c'est que l'exigence démocratique est la mère de toutes les exigences parce que la crise démocratique est au cœur de toutes les crises. Je dis parce que je vois bien depuis de nombreuses années, ça ne date pas d'aujourd'hui, le fossé qui n'a cessé de se creuser entre les représentants et les représentés. Je vois aussi aujourd'hui les limites de la démocratie électorale. C'était une grande nouvelle à l'aune de l'humanité. Enfin, une voix, une femme, un homme, une voix. Il a fallu attendre des années pour que les femmes puissent voter. Mais on voit bien que le système politique a été squatté par les politiques. Et que, on voit bien que les démocraties ou les campagnes électorales ou la conquête du pouvoir empruntent les mêmes ingrédients que le marketing commercial. La séduction est derrière le désenchantement. Parce que, à force de faire des promesses qu'on ne peut pas tenir, c'est le désenchantement. Ça pose d'ailleurs la question de savoir est-ce qu'on peut parler vrai pour être élu. Et puis, à la caricature, plus c'est gros, plus ça va. Et en plus, généralement, pour les gens qui sont relégués. Et puis, à la posture, je l'ai connue quand j'étais jeune élu, quand j'avais les dents longues. On cherche à avoir des arguments pour s'opposer. Et la majorité des arguments pour avoir raison. Et la posture, c'est en fait, auprès des gens, l'idée que les gens, finalement, les élus, sont là pour gagner leur place ou pour la conquérir. Et donc, séduction, caricature, posture, ça crée une crise profonde. Vous ajoutez un ciment ou une base où on voit que la montée en puissance de l'individualisme, dont Emmanuel Mounier disait que c'est être étranger à soi-même et étranger à l'autre, et que dans tout cela, entre l'entre-soi des élus, les comédies de conquête du pouvoir, les individus souvent repliés sur eux-mêmes parce qu'on ne les sollicite pas pour faire ce chemin entre l'individu et le citoyen, parce qu'on ne naît pas citoyen, on le devient, eh bien vous avez au total ce que j'appelle l'assistanat civique, c'est-à-dire l'alliance objective entre ceux qui décident en haut et ceux qui sont cantonnés, il n'y a qu'un faucon, parce qu'ils ne sont jamais associés à rien du tout. C'est ce que j'appelle les invisibles et qui doivent être pris en compte. Et je crois que cette question-là, ce que j'appelle la paresse démocratique, est une des sources profonde du populisme, des particularismes, des corporatismes, des communautarismes. Finalement, chacun a son bonnet. Et donc, on arrive à une situation bloquée. Et je pense que quand la démocratie telle que je l'entends, la démocratie construction, consiste à donner à chacun et à tous de construire du commun, malheureusement, l'élection s'adresse le plus souvent à l'addition de désirs, à l'addition à la somme d'envies et la multiplication des peurs. Ce qui nous amène finalement à des boulevards d'irresponsabilité et on ne voit pas trop bien comment on peut en sortir. Je ne voulais pas faire cette introduction très longue parce que je voulais commencer immédiatement par vous témoigner d'un moment de bonheur. Ça arrive. C'était la semaine dernière, à la même heure, à la Maison de la Citoyenneté, en rentrant le soir tard, puisque j'allais dîner avec les intervenants, sur le mur de Facebook, j'ai écrit « Plus heureux que le soir des élections ». Parce que je pense que le bonheur démocratique peut exister en dehors du bonheur égotique de l'accession au pouvoir. Les séquences démocratiques que nous avons mises en œuvre, ouvertes, si j'en parle maintenant et je commence par cela, c'est un peu des travaux pratiques, ça concentre en soi le sens, la vision, le cheminement partagé, l'exigence démocratique, les pratiques d'un retournement démocratique. J'aime parler de retournement démocratique, parce que ça correspond aussi à un retournement personnel. Je pense qu'on ne grandit pas dans l'espace public si on n'essaie pas de grandir soi-même. Et c'est par des allers-retours fréquents entre la pensée et l'action, et je tiens à le dire aussi, entre le silence et l'engagement, entre les incertitudes et les avancées, que j'ai cheminé avec l'équipe. Et c'est avec l'équipe qu'on a cheminé sur un retournement progressif démocratique qui se passe d'étape en étape, sur lesquelles j'en parlerai tout à l'heure, et notamment qui aboutit sur une charte du renouveau démocratique qui a été proposée l'an dernier au Conseil municipal et qui a été approuvée. Cette charte, c'est une charte en 5 points qui résume en gros la conviction et ce qui nous a amené à mettre en œuvre cette séquence dont je parle dans quelques instants. D'abord, pratiquer davantage la démocratie dans l'intervalle des élections plutôt que pour les élections. Premier principe. Parce que si on veut réenchanter la démocratie de représentation, il faut entraîner une démocratie de participation. La deuxième chose, préférer associer les citoyens et les ressources démocratiques au processus de décision plutôt que de se complaire dans l'entre-soi des élus, dans la posture et les clivages partisans. Troisième principe, essayer de fertiliser les points de vue différents plutôt que de se complaire dans les affrontements stériles. Quatrième principe, promouvoir le pouvoir d'agir des habitants et donc la responsabilisation de notre société plutôt que ce que Dominique Schnapper appelle la démocratie providentielle, qui se nourrit à la fois de la délégation permanente de pouvoir et de l'individualisme. Dernier principe, qui relève de l'éthique de la discussion, s'inscrire dans une éthique du dialogue pour favoriser l'écoute, le parler vrai et susciter l'élévation scrupuleuse du débat public. Si je dis cela, c'est parce que cette séquence qui a été ouverte sur un sujet excessivement anxiogène, je me suis préparé pendant des mois avant, qui est de réfléchir sur l'amélioration, construction d'un lieu de culte musulman dans ma commune, porté par une association dans un contexte que vous connaissez, entre nous, il fallait réfléchir à deux fois. Et je vais vous dire pourquoi on l'a fait et dans quelle perspective nous le faisons. Et c'est dans une démarche, dans une ingénierie démocratique qui est reproduite sur d'autres projets structurants. Cette démarche vient de la part de responsables que j'ai connus en culotte courte, d'une association qui s'appelle A2CSK, une association kingersheimoise, engagée dans la vie citoyenne. Ces responsables sont venus voir il y a un an, entourés de la municipalité. Nous avons reçu avec beaucoup de respect, rien ne nous obligeait à aller voir le maire, puisque le principe de laïcité est un principe de liberté, de liberté de culte et de liberté de construire un lieu de culte. Et nous avons reçu avec bienveillance. Je veux dire ici, le périmètre démocratique dans le débat public était clair, parce que je crois que le politique a aussi à mettre en avant des convictions qui circonscrivent d'une certaine manière le débat pour mieux le libérer la parole. Pour moi, il était clair que, en tant que politique, et aussi dans ma conviction personnelle, que toute personne, où qu'elle soit dans le monde, puisse pratiquer sa religion en dignité. Pour moi, c'est un principe qui est inaliénable et qui fait partie aussi de mes convictions profondes. Le tableau est posé, nous avons beaucoup échangé, plusieurs allers-retours avec la municipalité. On a posé les questions de l'architecture, du calendrier, de la localisation, des financements, bref. Puis au fur et à mesure de discussion, je dis, mais pourquoi on reste dans l'entre-soi de cette relation entre l'association et les élus que nous sommes, alors que sur tous les projets, systématiquement, je mets cette question à l'ordre du jour de la transparence, de la participation des habitants, du débat, de la participation. Et c'est là que j'ai voulu que d'un enjeu quasiment technique et dans l'entre-soi des élus, ça devienne un enjeu démocratique. Et à partir de là, nous avons mis en place cette séquence pour deux raisons. La première, c'est que le terrain le plus approprié était un terrain communal, et donc ça nous permettait d'avoir la légitimité de mettre cette question en débat public, qui est une question locale, mais qui fait ressurgir toutes les questions nationales sur l'islam qui aujourd'hui pose problème et qui crée des peurs. Et la deuxième, c'est précisément le contexte. Je vois trop, y compris dans ma commune, que la société s'interroge. Elle s'interroge, j'ai vu des gens qui m'abordaient, je voulais faire une mosquée, voilà. Elle a peur, c'est une société qui a peur. Et c'est sans doute un des freins puissants aujourd'hui dans notre pays, mais aussi plus généralement en Europe. Elle est à la merci de ceux qui instrumentalisent la peur, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, souvent rassurée par les discours de fier à bras. Et bien je me dis, localement, là on peut construire l'islam des Lumières avec les gens, l'islam de France. C'est localement qu'il faut mettre cette question en débat. Et je me dis que face au silence qui isole, il y a la parole qui libère. Face aux peurs qui divisent, il y a le dialogue qui relie. Face aux amalgames qui caricaturent, il y a le discernement qui éclaire. Et face aux impasses du repli, parce que les replis sont des impasses, il y a la promesse du vivre ensemble. Il y a ce que Abdennour Bidar appelle le plaidoyer de la fraternité. Je peux vous dire que nous avons vécu 3 heures de bonheur, parce que toute la municipalité est inquiète aussi. Je veux dire que je me suis préparé psychologiquement, comme je préparais à l'époque dans les rendez-vous sportifs. 3 heures d'écoute mutuelle, respectueuse, de paroles libérées. La presse en a fait des pages entières. Elle a restitué la parole des habitants. Elle a tué la parole du maire. La journaliste a tout compris. Parce qu'il y a ceux qui veulent instrumentaliser la peur, elle s'adresse à l'opinion. Et il y a ceux qui veulent favoriser le dialogue, nous impliquons le peuple et les gens. Et la journaliste a tout compris, ce qui est important, c'était les citoyens, comment ils se parlaient. Et à la sortie, il se trouve en même temps qu'on est couvert par une équipe d'envoyés spéciaux qui va faire un reportage pendant 4 mois sur ce qu'on fait à Kingersheim. Et donc, ça a ajouté à l'anxiété. Et la caméraman, j'étais plus là, mais on a témoigné, a rencontré les gens qui s'opposaient. Il y a une personne qui disait, moi je veux pas, on a l'invasion, j'ai peur, et on a respecté ce qu'il disait. Puis une femme en foulard, enfin, qui s'exprimait, moi je suis kingersheimoise, je paye mes impôts, je suis engagé dans la vie publique, dans l'école j'ai des responsabilités. Et puis c'était un peu contradictoire, la sortie, interroger les gens, les 3 personnes les plus virulemment opposées, mais pas virulemment, respectueusement, se parlaient, et la personne la plus critique disait à la télévision, finalement j'ai rien contre les musulmans. C'est-à-dire que quand on crée les conditions du dialogue, quand on crée les conditions d'une perspective de co-construire, alors il faut considérer qu'il n'y a pas, que la démocratie ne supporte pas l'impréparation. Parce que si on a vécu ces 3 heures de bonheur, c'est qu'il y a eu un avant et il y a un après. Parce qu'en aucun instant, je peux vous dire que les choses se décident dans un seul débat. Moi, je dis nuit debout, super, mais il n'y a pas de débouché dans la co-construction. Et donc, je plaiderai toujours pour que la démocratie enclenche les 3 fonctions essentielles, celle du débat, celle de l'élaboration collective et celle de la décision. Et ce bonheur démocratique, nous l'avons vécu parce que ça a été préparé par une équipe projet, comme pour tous les projets structurants, une équipe projet qui associe 5 habitants, il se trouve que ce sont les agoracteurs, membres de l'Agora, de ce conseil communal de la démocratie dont je vous ai parlé, et qui sont beaucoup impliqués dans cette affaire, 5 élus, dont moi-même, 5 membres de l'association, et l'appui technique, parce qu'on a besoin d'ingénierie, de la directrice de l'ORIV, qui est l'organisme, le centre de ressources de l'insertion et la politique de la ville. Ce débat a été animé par un professionnel dans notre livre « Faire renaître la démocratie ». Je propose notamment dans le chapitre que j'ai signé que dans tout bassin de vie, on est des ingénieurs de débat public, c'est-à-dire des gens qui sont capables de faire émerger la parole, de réguler le débat. Et cette personne-là, qui est un consultant que nous avons payé, parce que la démocratie a un prix et donc un coût, eh bien, a fixé les règles du débat dès le départ. Et il a dit, d'abord, on ne dit pas « on dit « je ». Vous voyez le discours « on » irresponsable dont parle Emmanuel Mounier. « On », mais ça veut dire quoi « on » ? Ça ne veut rien dire « je pense que ». Et on ne s'applaudit pas, parce qu'on n'est pas à la cour de récréation, on n'est pas le cirque, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Et donc, voilà, et on respecte, et on libère la parole, et on respecte la parole de l'autre. Et puis, ce débat a été enrichi, quand je parle d'élévation scrupuleuse du débat public, c'est qu'il faut aussi du matériau. Et donc, on a invité Joël Roman, qui est président de l'association Islam Laïcité, et une chargée de mission de l'Observatoire national de laïcité, telle sorte qu'on puisse éclairer. Vous parliez de citoyens éclairés, bien sûr, comme d'élus qui ont besoin d'être éclairés et de faire en sorte que ce débat conférence puisse avancer. Et puis ce qui est important surtout, c'est que cette conférence débat, c'est juste l'acte 1 de la séquence démocratique. C'est-à-dire qu'à partir de là, nous avons construit un conseil participatif, comme pour tous les projets structurants, maintenant quasiment pour tous les projets, lorsqu'il s'agit de mettre en application le programme municipal sur la base duquel nous avons été élus, ou lorsqu'il s'agit de répondre à une pétition qui est une bonne nouvelle de la démocratie. À chaque fois qu'il y a une question à enjeu ou un projet structurant, nous créer un conseil participatif, c'est quoi ? C'est de rassembler le temps qu'il faut, démocratie lente, le temps qu'il faut, de plein pied, toutes les ressources démocratiques, élus, habitants, volontaires ou tirés au sort et tirés au sort, organisations, experts, personnes ressources. Tout ce qui peut faire l'intelligence collective. Et le conseil participatif dédié au lieu de culte sera composé de 22 habitants volontaires, dont 4 agoracteurs, de 10 élus représentant les différentes sensibilités du conseil municipal, des 10 membres de l'association et de 10 personnes ressources extérieures, dont le curé, le pasteur, l'imam de Strasbourg, toutes personnes qui peuvent apporter un regard qui permet de réguler le débat. La composition d'un conseil participatif est très importante. De cette composition tient... On tient la réussite de la régulation de ce qu'on pourrait appeler un mouvement de consentement progressif, qui est dans la logique d'Habermas, la construction de compromis dynamique. Et donc, on va travailler là-dessus. La philosophie de ce conseil participatif, il est de fertiliser les points de vue, d'aller en profondeur, d'aller au fond des choses, d'étudier au fond des choses, d'échanger avec respect et de fertiliser les points de vue et de ne pas être dans une logique d'affrontement. J'imagine ce débat sans préparation, mais c'était la foire d'empoigne, possible potentiellement. Et puis son rôle est décisif, parce que je dirais quelque part qu'il n'y a pas pire démarche que de faire croire aux habitants qu'ils ont un rôle, alors qu'en réalité, n'en a aucun. Pour moi, c'est très important que le rôle du conseil participatif est à la phase décisive, ce que le conseil municipal est à la phase décisionnelle. Et je n'oppose pas ce qui est décisif et ce qui est décisionnel. Et c'est très important que ce soit une assemblée hybride qui soit dans le décisif, et une assemblée d'élus qui ont le suffrage universel et qui ont la volonté et la vocation de représenter les habitants puissent décider comme un fruit mûr des sujets qui ont été élaborés dans le temps de la maturation. Et donc, tout ça pour dire que derrière ça, il y a en effet la volonté d'une transition. D'une transition dont je disais tout à l'heure qu'elle pouvait être une démocratie providentielle, c'est-à-dire essentiellement électorale, descendante, passive, rarement participative, jamais implicative, vers ce que j'appelle une démocratie construction, sur laquelle je vais donner le sens. Mais ce qui est grave, c'est que dans la démocratie providentielle, elle est marquée par le pouvoir sûr et non pas le pouvoir d'animer, marquée par le pouvoir technique, marquée par l'individu roi, marquée par la délégation permanente de pouvoir. Et ce que je voudrais construire en alternative, dans l'intervalle des élections, c'est le concept, je n'ai pas trouvé mieux. Rosan Vallon parle de démocratie-société, je préfère parler de démocratie-construction. La démocratie est construction, elle doit être d'une haute exigence démocratique, et c'est en ce sens que nous travaillons. Qu'est-ce que ça veut dire, la haute exigence démocratique? Il faut que la démocratie soit interactive, c'est-à-dire l'organisation régulière, fréquente, construite entre les représentants et les représentés. Il faut qu'elle soit lente. C'est une provocation quand je dis ça, parce que quand on voit la culture de l'immédiat, du zapping, la façon dont les ministres doivent affriter un avion qui coûte cher pour aller sur place, se montrer, être homme de terrain, qu'est-ce que ça veut dire être élu de terrain, pour faire ensuite des lois qui ne seront pas appliquées par des décrets qui ne sont jamais présentés, une démocratie de la vitesse qui se termine par des promesses non tenues. Je préfère une démocratie lente, c'est qui met en avant la maturation, qui prennent en compte trois éléments de l'espace public qui sont fondamentaux, la complexité, Edgar Morin, tous ceux, mais a priori, tous ceux qui vous disent « Monsieur le maire » ou « Monsieur le président » ou « Monsieur, c'est simple », ou tous ceux qui mettent en avant les vertus du simplisme sont des menteurs, tout simplement, c'est des gens qui cherchent des voies. La vie n'est pas simple, ni personnellement, ni dans nos vies de couple, ni dans nos vies de famille. Pourquoi serait-elle simple dans l'espace public ? Et donc, je suis en effet un adepte de la complexité parce que c'est la réalité. C'est aussi prendre en compte un autre élément, c'est l'altérité. Quand on chemine vers une décision, ce n'est pas pour sa pomme. Alors, je n'ai rien compris à l'engagement politique et à l'engagement citoyen. C'est de reconnaître que l'autre, y compris celui qui n'est pas encore né, puisse bénéficier d'une planète qu'on aura préservée. C'est celui de l'autre qui n'est pas notre électeur. C'est l'autre voisin qui fait un peu de bruit parce qu'il est enfant. C'est l'autre, de l'autre côté, qui se noie sur la mer Méditerranée. L'altérité, c'est aussi ça. Et ça fait partie de l'exigence démocratique. Et puis, c'est la durée, c'est-à-dire quelque chose qui puisse être durable dans le temps et qui puisse être maturé par le temps. Et puis enfin, pour moi, la démocratie doit être différente. J'aime bien dire que la démocratie de construction est une démocratie de fraternité. Alors, ça paraît bisounours, mais ce n'est pas du tout ça. C'est aussi être capable de mettre sur la table des désaccords pour construire des accords. C'est aussi ça, la fraternité. C'est être en désaccord pour construire des accords. C'est ce mouvement de fraternité. C'est là-dedans qu'on voit l'humanité qui nous habite. Eh bien, édifiante, pourquoi ? Parce que l'élu, il ne faut plus qu'il fasse pour, il faut qu'il fasse avec. Il ne faut plus qu'il soit dans le tout ou rien, mais dans le plus ou moins, parce que tout ou rien, ça n'existe nulle part. Il ne faut pas qu'il fasse dans un face-à-face stérile, infantilisant, du style réunion de quartier, où le maire apporte les réponses, les habitants sont juste pas en train de poser des questions sur les gendarmes couchés, les crottes de chiens. Et donc, voilà, édifiante, passer du face-à-face stérile vers un côte-à-côte coproductif, c'est pour ça la Maison de la Citoyenneté, nous sommes côte-à-côte et organisés pour que le débat public puisse se faire. Édifiante aussi pour les habitants. Et c'est en ce sens que je considère que la démocratie n'est pas qu'une technique, mais est une finalité en soi, parce que c'est un enjeu de transformation collective et de transformation personnelle. Pourquoi ? Parce que inviter les habitants, les citoyens à un processus décisionnel, c'est l'inviter de passer du « je » qu'il affirme vers le « nous » que nous construisons, du particulier au général, de l'immédiat au long terme. Ce n'est pas une transition, ça. Ce n'est pas quelque chose qui peut nous construire. Et je pense que lorsque les gens sont au départ d'une séquence démocratique et lorsqu'ils sont à l'arrivée, c'est des gens transformés. Comme moi, je suis transformé depuis que je suis élu. Parce qu'il y a une notion de grandissement qui nous appelle. Parce qu'on est quelque part dans l'intérêt général. Parce que c'est notre vocation de l'être, même si on le fait maladroitement. Mais c'est le rôle du politique que d'être dans la construction du commun et de solliciter les habitants de cette construction. C'est ce que nous essayons de faire. Faire en sorte que donner à chaque individu la chance d'être citoyen. C'est un cheminement d'inventivité, de créativité et surtout d'universalité. Il y a 6 points qui me paraissent importants de vous dire et en quoi ces 6 points suscitent l'intelligence collective. Le premier point, et c'est en ce sens que ça ne se résume pas à une technique, à une ingénierie démocratique, le premier point, je l'ai dit d'entrée tout à l'heure, la démocratie est d'abord un état d'esprit. Il faut qu'on redonne confiance, qu'on donne envie aux gens, qu'on crée le désir démocratique. On ne peut pas critiquer les gens de ne pas participer quand ils sont harassés par des journées de travail, quand ils ont des fins de mois difficiles, quand le temps démocratique n'est pas fait pour les temps de famille. Voilà. Et donc, il faut créer de la confiance, il faut donner du sens. Et puis surtout, il y a un rapport au comportement, à l'attitude, à la façon d'être qui est fondamentale. Je dis, pour résumer, élu, c'est être homme et pas notable. C'est être dans la simplicité et la sobriété. Pendant longtemps, au début de mandat, j'étais plutôt dans l'idée, on se fait un peu mousser, et je le reconnais volontiers. Ça fait partie aussi de mon personnage. Pendant ce temps, depuis, je suis passé pas mal par le caramel de la paix pour faire silence, et puis de faire un peu une révision de vie pour essayer de grandir un peu. Mais à l'époque, je faisais des vœux du maire, c'était 1000 personnes dans la salle, dont on sait parfaitement qu'un tiers était essentiellement venu pour bouffer, et le maire pour se faire plaisir et entendre ce qu'il fait de bien. En gros, c'est quand même ça. Vous n'entendez jamais un maire dire ce qu'il fait de mal. Donc, quelque part, c'est quand même une logique d'autosatisfaction qu'on le veuille ou non, même si quelques maires ont le courage de dire qu'il y a des éléments qui vont même bien. Mais la logique fait que les vœux du maire, je ne supporte plus. D'ailleurs, ma femme, qui est plutôt la plus grande critique à mon égard, qui n'est pas du tout de ma cour, qui me dit ce qu'elle pense, ne serait-ce que pour me protéger de moi-même, a toujours considéré que ces vœux du maire, c'était une grande comédie. Je pense qu'à juste titre, elle avait raison, et qu'elle avait souvent raison avant moi. Et donc, à la place de faire les vœux du maire, je fais les vœux de Kingersheim, aller à l'extérieur pour permettre au maximum de gens de venir. On a réussi deux fois à avoir du beau temps en janvier, avec des spectacles culturels, 5 minutes de discours sur le pacte civique dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas de parler de la ville, mais d'un état d'esprit, d'une idée de transformation collective, de sens, de créativité. Et donc, voilà, on ne fait plus d'inauguration, parce que je trouve que le coupé de ruban avec le sénateur qui est pour rien, le député pas davantage, le conseiller général pour 8%, le conseiller général pour 25% et 30% quand ça va bien, et le maire qui se coltine le réel. Entre nous, je pense que les conseillers départementaux qui sont là savent que ce n'est pas ça l'essentiel de notre job. Et ces coupés de ruban, c'est juste une image de l'entre-soi des élus qui n'ont pas de sens et qui voudraient quelque part dire qu'on est propriétaire de ce qu'on fait. Je crois que la grande conscience qu'on a pris de notre équipe, c'est surtout ne jamais d'être dans l'idée qu'on est propriétaire de ce qu'on fait. On est juste de passage. Et ça, ça crée beaucoup d'humilité dans ce qu'on peut faire. Et voilà. Et donc, je pense que la simplicité, la sobriété, l'écoute, l'accueil. Par exemple, chaque semaine, j'ai une permanence du maire ouverte à tous, sans inscription. Les gens viennent. Parfois, j'ai 20 personnes. Parfois, j'en ai 2. Ça me permet d'avoir plus de discussions, des moments de grande émotion. Et ce moment-là, je suis clair. J'ai un stylo, une feuille blanche, pas de téléphone et le regard. Et j'écoute. Et je peux vous dire que quand on vient voir le maire, les maires ici présents le savent, c'est qu'on vient voir le magicien, parce qu'ils ont tout essayé, et que le maire n'est pas plus magicien qu'il le pense. Mais j'ai observé que les trois quarts des réponses se trouvent dans l'écoute du maire. Juste de considérer la personne, de lui donner du temps. Il y a des gens, une personne est venue l'autre jour, elle tremblait, je dis « Madame, ça ne va pas ?» C'est la première fois que je viens voir un maire. Écoutez, moi je tremble autant que vous, parce que je ne suis pas sûr de trouver une solution à votre problème. Ça a mis... De plein pied, et on est rentré dans une relation de confiance qui est juste magnifique, juste l'essentiel de ce qu'on peut faire. Et puis, il y a dans cette démarche-là, il y a aussi la transparence et l'équité. Pour remplacer le personnel communal pour les jobs d'été, ça fait des années que je ne décide pas, je ne verrai pas en vertu de quoi je choisirai 30 jeunes sur 90 à peu près chaque année, en vertu de quoi ? Ce seraient les enfants des élus, les enfants des fonctionnaires, en vertu de quoi Mohamed aurait moins de chance que Joseph. Et donc on réunit tous les candidats à la maison de la citoyenneté et on fait un tirage au sort. Et je peux vous dire que c'est des moments symboliques qui donnent de nouveau envie aux gens de réenchanter avec la politique, parce qu'ils touchent du doigt la transparence, l'équité et l'égalité, qui manquent tellement dans notre société. Et pour moi, c'est des moments de frisson parce que je sens que je suis connecté avec les habitants, parce qu'il y a quelque chose qui passe. Il y a des moments comme ça qui sont de l'ordre symbolique, voilà, et qui créent une dimension qui est forte. Et puis enfin, le dernier élément, c'est l'éthique de l'agir public, l'intégrité. Et quand je vois comment un certain nombre d'élus, comme par exemple dans la banlieue parisienne, peuvent être réélus, alors qu'on sait pertinemment que c'est les plus grands voyous, et ça pose aussi la question de l'électorat. L'intégrité. Comment peut-on voter pour un mec dont on sait pertinemment que c'est un voyou ? Et c'est une minorité, toute petite minorité, mais comment peut-on ? L'intégrité, le parler vrai, Rocard et d'autres, et puis surtout la congruence entre ce qu'on dit et son fait. Si je fais des conférences, je ne permettrai pas, mesdames et messieurs, de venir parler de démocratie de participation si je n'appliquais pas à la lettre depuis que je suis maire. Ce qu'on dit, on le fait. tout ce que nous avons dit que nous allions faire, nous l'avons fait, et souvent plus. Parfois, les gens trouvaient qu'on faisait trop, mais cette éthique qui fait que c'est une promesse, c'est ce qu'on dit doit être réalisé. Et ce qui ne se passe pas au niveau national, et ce qui crée aussi ce désarroi parmi les habitants. Et donc, la première chose, c'est un état d'esprit. La deuxième chose, c'est un lieu dédié à la démocratie. Je suis très mal à l'aise parce que je suis en surplomb. À la maison de citoyenneté, je suis en bas. Et tout est organisé en cercle, parce que le face-à-face ne correspond pas au débat démocratique. C'est côte à côte. Et nous avons créé un lieu dédié, nous l'avons ouvert en 2006. Il est à la démocratie ce que la forge est au forgeron, parce que la démocratie est vivante ou elle n'est pas. Et elle est autant la maison pour la concertation que pour la décision, autant la maison des citoyens que des élus. Là s'organise le conseil municipal, là s'organisent les forums, là s'organisent les conseils participatifs, les groupes d'Agora 15 mètres, les débats publics, prochainement sur le revenu universel de base. Voilà, c'est le lieu des citoyens, c'est la maison de la citoyenneté. Je crois même d'ailleurs qu'Alexandre Jardin, m'a un peu, qui viendra le 3 novembre à Kingersheim, m'a un peu pompé l'idée en mettant en place sur ligne la maison des citoyens. Tant mieux, puisque si ça généralise, c'est très très bien. Mais cette maison de la citoyenneté, c'est plus que ça, c'est le lieu de toutes les fonctions démocratiques. J'en parlais tout à l'heure, la décision bien sûr, mais la décision doit s'appuyer sur un débat et sur la coélaboration. Toutes les ressources démocratiques, les élus, les habitants, les organisations, les experts, en gros pour résumer. L'expertise est très importante, contrairement aux populistes qui parlent de technocrates en parlant d'experts. Moi je parle de technocratie quand le politique n'est pas présent. Eh bien c'est dramatique parce que l'expertise, il y a peut-être des gens qui sont dans les collectivités, est fondamentale pour les élus. Et donc il y a toutes les ressources. Et puis c'est aussi le lieu des trois cultures. Cette image l'emprunte à Jean-Baptiste de Foucault, président de Démocratie et Spiritualité, qui a écrit un bouquin sur la culture de l'utopie, de l'indignation et de la régulation. Nous sommes tous habités individuellement, personnellement, et il y a tous, dans l'espace public, ces trois cultures. La culture de l'utopie, de la vision, du rêve, du projet. Il y a la culture de l'indignation, de la résistance, de la critique, du contre-pouvoir. Puis la culture de la régulation, de l'engagement, de l'implication. Ce que j'observe globalement dans notre pays, c'est que ce pays est devenu un pays de spécialistes. Aux uns, l'utopie, mais jamais prendre la responsabilité. Aux autres, l'indignation, mais jamais prendre en compte le réel. Et aux derniers, enfin, à force d'être dans la conquête du pouvoir, ils ont perdu tout le début d'utopie et d'indignation. Et nous voilà donc dans une société qui ne sait pas se parler, qui ne sait pas fertiliser l'utopie, l'indignation et l'engagement. Eh bien, dans cette maison de la citoyenneté, j'ai envie que cette maison produise cette fertilisation croisée entre le rêve, contact de la réalité, l'indignation, parce que souvent les gens viennent par indignation, parce que par peur ou par autre chose, et puis finalement la régulation, c'est-à-dire l'engagement, le difficile, le courageux exercice du principe de réalité, du cheminement du principe, ce que j'appelle la radicalité du possible. Et puis, ce lieu, c'est aussi le lieu de l'égalité démocratique. L'autre jour, je suis intervenu au Centre Sèvres avec Stéphane Rosès et Myriam Revaud-Dallonne, qui, dans le dernier hors-pair d'études, disait que l'élection n'est pas le lieu de l'égalité démocratique. Ça peut l'apparaître, parce que chacun a la même chance de voter. En réalité, le vrai lieu de l'égalité démocratique dans ma commune, c'est la maison de la citoyenneté. Et j'emprunte à Pierre-Rose en Vallon cette idée de l'égalité revisitée, qui n'est pas l'égalitarisme, qui est de prendre en compte la singularité de chaque parole. Chaque parole est singulière. Et donc la démocratie est inclusive. Il faut l'entendre, même si elle fait mal, même si elle fait peur. Et puis, il y a la communalité, c'est-à-dire la nécessité de construire du commun. Et dans l'intervalle, il faut gagner dans la réciprocité. C'est ce qu'on ne voit pas à l'Assemblée nationale. Regardez les interventions des députés. Chacun dans son truc, il n'y a pas de réciprocité. Donc, singularité, réciprocité, communalité, construire du commun. Et pour moi, c'est fondamental, ça passe à partir de ce que dit la parole de chacun, et par la réciprocité des échanges. C'était le lieu, c'est important, et je peux vous dire que c'est un lieu qui est de plus en plus fréquenté, qui est fondamental. La troisième chose importante, c'est de jouer toute la partition démocratique, ce que j'appelle la grammaire démocratique, qui ne peut pas s'arrêter à l'alphabet démocratique de l'élection, de la décision tout seul et des affaires partisanes, même si on a toujours besoin de partis politiques différents. La partition démocratique, pour moi, commence, c'est cinq niveaux d'exigence. Et toutes les séquences démocratiques doivent être enrichies par ces cinq niveaux d'exigence. Il y a d'abord se mettre à l'écoute, ça peut être au début et à la fin du processus. Se mettre à l'écoute, ça peut être une consultation, le référendum, que j'utilise, à mon avis, beaucoup prudemment. Imaginez un référendum sur le lieu de culte à Kinersheim, c'était mal barré. Se mettre à l'écoute. Deuxième niveau d'exigence, dans toute séquence, informer, donner du sens. Ce monde, il crève de déficit de sens. On parle de programme, de budget et jamais de sens. Pourquoi, pour qui et pourquoi en deux mots. Et puis le troisième niveau d'exigence, débattre, trouver, retrouver l'agora grecque ou l'esprit du forum romain. Débattre, être capable de se parler. Quatrième niveau d'exigence, co-construire, coproduire, c'est la pierre angulaire à Kinersheim de tout processus de décision. C'est ce qui manque le plus dans notre pays. Il n'y a pas d'instance de coproduction réelle. Et puis, enfin, dernier élément, dimension la plus aboutie de la démocratie, c'est l'engagement, c'est l'implication, que ce soit par une décision au conseil municipal ou par une décision comportement personnel ou par une organisation qui s'implique, peu importe. Ce n'est pas une différence de niveau, c'est une différence de nature. Moi, je trouve que je n'ai pas plus de responsabilité dans une décision politique qu'un individu, qu'une personne dans sa décision personnelle. C'est une dimension de nature, mais pas de niveau. Je crois que c'est important de dire qu'au bout du compte, c'est mieux décider pour mieux agir ensemble. Chacun a son échelle et chacun a son niveau de responsabilité. C'est ça que ça veut dire. Et puis, quatrième chose importante, je crois qu'il ne faut jamais baisser la garde. C'est vrai sur la transition énergétique que j'anime sur l'agglomération, après avoir lancé un plan climat énergie territoriale en 2006, et c'est vrai pour la démocratie. Parce que ça a besoin toujours d'un souffle nouveau. Et donc, on s'est organisé, au début ce n'était pas voulu, maintenant rétrospectivement je vois bien que c'était nécessaire, on a organisé des étapes de mobilisation qui prennent sens, qui rassemblent, qui donnent sens aux habitants. En 1998, c'est un moment où j'ai compris qu'il fallait changer de calibre. Mon premier mandat, 89-95, il manquait tellement de choses qu'on a fait pour les habitants. Ça n'a pas empêché d'être élu à 65% dans ma commune et je n'ai pas fait de la participation autre que des réunions de quartier. Voilà. Mais très vite, j'ai compris que ce n'est pas ça. Réunion de quartier, c'est, je ne suis pas sûr que l'esprit de responsabilité se trouve dans un face-à-face infantilisant entre les habitants qui demandent, qui sont juste en situation de demande, et le maire qui répond. Une sorte de magicien qui répond à une sorte de ressource client-fournisseur. Voilà. Je crois pas que l'esprit de responsabilité se crée là-dedans. Et donc, en 98, après avoir été candidat en 97, dans un territoire très majoritairement à droite, où j'ai failli louper de quelques voix à travers une triangulaire, on m'a dit, on ne voit que pour les élections. Me dire ça, on pouvait l'entendre à l'extérieur de la commune, mais pas dans ma commune. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut absolument que symboliquement, je fasse autre chose. Et l'année d'après, en 98, au milieu du deuxième mandat, j'ai décidé, du mois de mai en septembre, de parcourir la ville à pied, à raison de 100 habitations à visiter par demi-journée. Préparé par les services, je partais avec mon dictaphone, avec ma musette. Parfois, il faisait très chaud. Parfois, j'ai failli péter les plombs parce que c'est quand même pas évident. Et l'idée, c'était la suivante. Je me dis, si tu vas auprès des habitants pour dire ta proximité, ta responsabilité de politique dans la construction du commun et de l'intérêt général, c'est de les inviter à se rapprocher, autre degré de proximité, du bien commun, de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire l'avenir de la ville. Et donc, j'ai fait cet effort de rencontrer les gens. J'ai pris note. Il y avait 350 sujets à traiter, toutes réglées dans l'année qui suivait, puisque le soir, évidemment, je faisais mon boulot de dictaphone. Ça passait dans les services. Ça partait et c'était mis en œuvre. Parce qu'il n'y a pas pire que de faire semblant d'écouter les habitants et de ne pas suivre derrière. Et donc, et en même temps, j'ai distribué un questionnaire sur l'avenir de la ville, avec les questions les plus provocatrices possibles, les impôts, logement social, les gens au fond n'en voulaient pas, 82%, et restitution. Et j'ai dit, je suis d'accord sur tout, sauf sur les logements sociaux. Dans ma ville, il y aura des logements sociaux parce qu'il y a des besoins de loger les gens. Le prix de l'eau, il reflète le prix de l'eau parce que c'est de l'eau communale, en fait, c'est un bien commun communal. Et puis un autre sujet, on n'était pas d'accord, je l'ai dit clairement aux habitants, et aussi ce dialogue-là. Mais il faut savoir que le fait de se rapprocher des habitants a fait qu'on a eu 43% de questionnaires qui sont revenus à la mairie. 43% des gens qui ont consacré, de familles, qui ont consacré une demi-heure à remplir le questionnaire. Je dis que l'opération était réussie. C'était important de faire réfléchir les gens sur la ville. Deuxième étape de mobilisation, plus mûre encore. J'ai lancé, et ça reste la base de notre engagement, les états généraux permanents de la démocratie. C'est l'idée de dire que, comme le pense Hannah Arendt, la démocratie n'est pas au sens du verbe être, elle naît. C'est la philosophe du commencement. capable de commencer. La naissance, toute séquence démocratique est une naissance. Et si on ne considère pas ça, eh bien, la démocratie se meurt peu à peu. La démocratie n'est pas, elle naît à chaque fois. Et donc, permettre à tout habitant d'être co-propriétaire de l'intérêt général, parce que co-décideur de la décision publique, co-producteur de la décision publique. Et ces deux choses sont liées. Et donc, on a fait un travail de téléconsultation. J'ai posé un questionnaire aux habitants, j'ai téléphoné. À l'époque, il y avait le fixe, c'était possible. Maintenant, avec le téléphone portable, c'est plus compliqué. Et donc, j'ai laissé un message à tous les habitants. Là aussi, 42% des gens ont répondu sur la grammaire démocratique qui s'est constituée à partir de ça. Écouter, informer, débattre. Quelques différents. Les gens avaient plutôt envie des réunions de quartier, normal. Plutôt biberonné à poser des questions qu'à co-construire avec le maire. Par exemple, la restauration des manouches sédentarisées dans ma commune, ça a été un bide sur le plan de la participation. Pour une raison simple, c'est Ponce Pilate, le maire se démerde. C'est une population qui est là, mais qu'on accepte à peine, ou en tout cas qu'il y a de l'indifférence. Et on a mis 10 ans à co-construire avec les manouches sédentarisées depuis 1934 un village qui s'appelle Voie Médiane, même droit et même devoir. Voilà, je pourrais longuement parler de ce sujet-là, mais c'est un truc qui nous a beaucoup mobilisés. Troisième étape, la création de la maison de la citoyenneté. Quatrième étape, 2011, et au passage, j'ai lancé le plan climat énergie territoriale sur l'agglomération. Troisième étape, 2011, King Simon Ensemble, comment décliner localement le pacte civique dont je suis co-auteur, dont un certain nombre d'amis sont présents dans la salle. Le pacte civique professe cette conviction, c'est qu'il n'y a pas de changement durable sans les politiques, sans les organisations et sans les citoyens. Vous retrouvez la composition des conseils participatifs, c'est la mobilisation de tous. Chacun a son degré de responsabilité. Et le pacte civique dit aussi que nous voulons créer une société, donc une ville, créatrice de sens, sobre, juste et fraternelle. Donc cette étape-là a mobilisé par des forums ouverts que utilise Colibri, par exemple. On a mobilisé le hangar, qui est une grande salle, pour permettre à la fois à la grande scène, puis aux petites scènes de s'organiser, de faire en sorte qu'on puisse aller dans l'espace des nouvelles, des petites nouvelles, enfin faire en sorte que les gens puissent à deux pieds changer d'atelier, enfin des soirées conviviales qui ont rassemblé 300 habitants. Je ne suis pas très content du processus parce qu'il y a plein d'idées qui ont été mises que les gens n'ont pas mises en œuvre derrière. Donc je préfère les démarches dont je vous parlerai tout à l'heure, qui sont peut-être plus encadrées mais plus motivantes pour les habitants parce que c'est un début et une fin. C'est très important. Et donc, King Simon. Et puis ensuite, 2015, Agora 15-20, Agora, la démocratie, 15-20, 2015-2020, démocratie continue, efficiente, effective, et 15-20, comment avec les habitants réaliser une démocratie d'excellence. Et le point de départ, c'est me dire, souvent, on a les TLM, toujours les mêmes, dans nos réunions, et notamment dans le conseil participatif, et souvent, un potentiel démocratique fantastique sont les retraités, j'en suis, donc je ne les critique pas. Mais quid des familles? Quid des jeunes, quid des enfants issus de l'immigration, voilà. Et c'est des sujets sur lesquels on est en train de plancher. Ce n'est pas évident du tout. Et en partant de ce constat, je me dis qu'il faut absolument élargir les publics. Et donc, rebelote, mais là, pas tout seul, avec les élus et les agoracteurs, c'est les gens déjà engagés, citoyens engagés. On a fait du porte-à-porte avec un seul discours. On ne vient pas solliciter votre voix, puisqu'on a été élu l'an dernier. On vient vous dire que vous êtes important pendant tout le mandat. Et en gros, on a distribué un questionnaire, des propositions, avec des propositions qui sont laissées à l'initiative des habitants, sur tout un sujet, des choses très concrètes, par exemple les mises en œuvre des incroyables comestibles, des choses de ce type-là, l'élargissement du parc des Gravières vers le poumon vert, vers la zone des étangs, des choses très concrètes, comment régler les incivilités devant les parkings, devant les écoles, est-ce qu'il faut plus de parking alors qu'il y en a déjà, ou est-ce qu'il faut que les gens fassent un effort, que le groupe est en train de travailler pour réaliser des faux PV mis par les enfants sur les pare-brise des parents, pour que les enfants éduquent les parents à la bonne conduite et à la lutte contre les incivilités à la sortie d'école. Et donc l'idée, c'est plus de sujets très concrets qui vont bien avec la sobriété budgétaire. Et puis, ce qui est nouveau aussi, c'est la charte de renouveau dont je vous ai parlé, l'assemblée hybride Agora, qui est le Conseil communal des démocraties, qui lui impulse, et plus le maire et la municipalité. On est 46, avec une majorité d'habitants, des élus bien sûr, des collaborateurs de la ville, et des représentants des associations fédératives, qui jouent vraiment le jeu. Et donc, cette assemblée impulse les séquences, évalue, et nomme les équipes projets qui travaillent sur les séquences. Souci de formation aussi, puisque avec un cabinet consultant, on a décidé de former des élus, des habitants à être un tout petit peu ingénieur de débat public, à pouvoir démultiplier les débats au moment où on va généraliser ce qu'on appelle en Alsace les Stammtisch, c'est en fait les cafés débats, convivialité, on blablate, on discute de choses ou d'autres, ou sur des thèmes précis. Par exemple, un des thèmes qu'on va mettre à l'ordre du jour, peut-on imaginer que Kingersheim, que la vitesse soit limitée à 30 à l'heure à Kingersheim, comme c'est le cas à Grenoble par exemple. C'est un sujet qui peut démarrer par un café débat, peut se poursuivre par un conseil participatif et déboucher sur une décision du conseil municipal. Donc voilà, et c'est très important de dire aussi que tous les projets, toutes les séquences sont préparées par des équipes projets avec des agoracteurs, des élus et un technicien. Toujours un trinôme, un porteur politique, un porteur technique et les habitants citoyens qui peuvent être porteurs politiques. Par exemple, le conseil participatif sur lieu de culte, moi j'ai fait mon job, je ne considère plus à présider le conseil participatif, j'ai demandé à un habitant de présider avec la collaboratrice qui est la directrice de l'ORIV. Du coup, pendant le conseil participatif, je suis élu de plein pied, ayant le même puissance d'avis que les autres et pas davantage. Par contre, je serai nouveau à l'arrivée sur la décision qui sera proposée par le conseil participatif. D'ailleurs, symboliquement, fin décembre, je laisserai ma place au président du conseil participatif sur ce sujet, exposer les délibérations. Je prends la place en tant que président de séance du conseil municipal pour faire débattre le conseil municipal et prendre la décision. Donc le lien entre la phase décisive et la phase de décision est tout à fait essentiel. Cinquième point, c'est très important, je sais que vous le faites à Vendeuvre, il faut travailler sur une diversité d'outils. Il n'y a pas un outil, il n'y en a pas deux. Il faut qu'il soit adapté au processus, à l'urgence de tel ou tel projet. Et par exemple, nous avons remplacé les réunions de quartier par diagnostic en marchant. Et on invite les habitants du quartier, on marche ensemble, on chemine ensemble pour essayer de discerner ce qui ne va pas, de montrer ce qui ne va pas et de voir comment on peut trouver les solutions ensemble. Là aussi, comment l'engagement citoyen peut se révéler. Nous avons mis en place un jury citoyen à plusieurs reprises, notamment à l'occasion du vote électronique. J'avais proposé ça, presque sûr que le conseil municipal allait voter le vote électronique. Voilà. Et puis un élu de l'opposition me dit, mais monsieur le maire, avec ça vous pouvez tricher. Voilà. Quand j'ai entendu ça, je dis stop, j'ôte cette délibération du conseil municipal et je vais réfléchir à la façon démocratique sur laquelle on peut réfléchir, parce qu'il n'y avait pas pire affront qu'on peut imaginer que de mettre ça en délibération pour si possible tricher, comme si un vote électronique pouvait le faire. Mais du coup, j'ai bien fait de le faire. On a réuni, tiré au sort un jury citoyen avec des arguments des experts qui sont venus pour les arguments, d'autres des arguments contraires. Et le jury citoyen a décidé de rester au vote classique. Et donc, j'ai proposé au conseil municipal le vote classique qui a été retenu à l'unanimité. Donc voilà comment on peut aussi, un élu, retirer une délibération qui n'est pas mûre pour en proposer une autre qui a été mûrie auparavant. On a les Stammtisch, forum ouvert, j'en ai parlé. Et puis là, je reste deux instants sur les conseils participatifs, parce que je pense que c'est la démarche la plus efficiente, en tout cas celle qui peut me faire dire que la démocratie est l'oxygène de la République. C'est-à-dire, c'est pas l'anarchie, c'est pas l'atomisation des besoins, c'est pas l'addition des envies, c'est comment on construit ensemble, dans la durée, quelque chose de fort. Il y a, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a six conditions pour que ça marche. La première, il faut qu'au départ, il y ait la base démocratique la plus large possible. Toutes les personnes concernées doivent être invitées. Personne ne doit se sentir exclu. Et vous allez voir que souvent, vous le savez, monsieur le maire, c'est ici, tout le monde ne se déplace pas. C'est heureusement d'ailleurs, d'où parfois aussi numérique, sur lequel j'aurai des interrogations, mais quand même, base démocratique, il faut qu'au départ, l'égalité s'exprime par l'égalité d'invitation. Ensuite, c'est la question de la représentativité. Quand nous créons le conseil participatif, notamment le collège des habitants, je favorise bien sûr ceux qui sont engagés, mais en même temps, je vois que ceux qui s'engagent ne reflètent pas la population. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent toujours les mêmes ou toujours les retraités. Et, voilà. Et du coup, je réserve toujours une part du collège des habitants au tirage au sort. Quel est le résultat du tirage au sort? Une personne sur six accepte d'être tirée au sort. Les autres, c'est parce que maintenant, je fais confiance au maire, ou de toute façon, c'est un imbécile, ou pire, je ne suis pas capable, l'autocensure, ou encore, je n'ai pas le temps démocratique. Et donc, il y a beaucoup de raisons qui font que les gens n'ont pas le temps démocratique de participer. Dans cette formation du collège des habitants, il y a donc les représentants qui s'engagent, qui sont là, tirés au sort. Et parmi les gens qui s'engagent, je réserve toujours 20% du collège aux habitants qui sont directement concernés et qui pourraient faire l'objet d'un imbi, not in my backyard, partout mais pas chez moi. Et je peux comprendre, mais si j'écoutais ça, je ne ferais aucun équipement public nulle part. Mais il faut qu'il soit là pour dire les difficultés, pour voir comment on fait la question des limites, la tranquillité publique et tout ça. Troisième sujet important, tout début des séquences démocratiques doit revenir aux sources de l'université populaire, c'est-à-dire le temps de la formation des élus, des habitants, des experts, pour qu'on puisse appréhender le sujet en connaissance de cause avec le même niveau, le même sens des mots et le même niveau de compréhension. Je donne l'exemple du plan local d'urbanisme qui a été formalisé, mûri par un conseil participatif. Nous avons passé 2 soirées à réfléchir avec l'idée, c'est que notre ville est un coin de la planète et donc quid des accords de Kyoto, de Grenelle de l'environnement à l'époque, de la loi de transition énergétique aujourd'hui, du schéma de cohérence territoriale, de la loi SRUI qui oblige à des logements sociaux, etc. C'est important que les habitants le sachent, qu'on est dans un monde contraint, que tout n'est pas possible, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, et que surtout que le local n'est pas du bocal, qu'on s'ouvre à l'extérieur, et que je veux une ville qui corresponde à la planète qui soit réservée à nos enfants. Et donc ça, c'est aussi le périmètre du maire qui présente les choses. Et puis une 2e soirée sur la densité. Vous savez qu'aujourd'hui, si on continue comme avant, on va artificialiser toutes les terres agricoles et dans un siècle, on n'aura plus de zones. Voilà. Et donc, il faut réfléchir à une densité humaine qui fasse l'équilibre entre le besoin de logement et le désir d'environnement. D'où la notion d'éco-quartier ou de travailler plutôt sur le renouvellement de friches industrielles que d'aller sur des zones agricoles. Chez nous, tout ce qui est les zones agricoles ont été sanctuarisées en zones agricoles puisqu'on va mettre des fermes urbaines dessus, des agriculteurs bio, tout ça on est en train de travailler. Donc voilà, c'est la formation. 4e élément important, il faut qu'on ait, pour élaborer le débat, je l'ai dit tout à l'heure, des ingénieurs de débat public, des gens qui soient capables d'animer le débat public, de fertiliser les points de vue, et ce n'est pas simple. Et puis, 5e élément, très important, et là, ça peut faire objet de débat, je vois bien que la journaliste d'envoyé spécial tiquait un peu là-dessus, c'est que je pense que le politique, la noblesse du politique, c'est de définir au départ ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Parce que si vous ne le faites pas, vous créez de la frustration à fond. Il n'y a pas pire de dire, bah écoutez, mettez tout sur la table, rêvons tout ce qui est possible, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas à tenir compte du voisin, on peut y aller. Et je pense qu'à un moment donné, l'honneur du politique, à condition que ce qu'il propose soit débattu, c'est de dire, voilà, ce qui est négociable, ce qui ne l'est pas. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on a engagé la réflexion sur l'aménagement du temps de l'enfant et qu'on a créé un conseil participatif, j'ai dit aux habitants, écoutez, tout est sur la table, carte blanche. Mais il y a 2 choses sur lesquelles je ne transigerai pas. Celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec la loi n'auront pas leur place parce que je suis un élu de la République et j'applique la loi. Et deuxièmement, la petite réformette, parce qu'on a vu, on peut aller beaucoup plus loin, sur l'aménagement du temps de l'enfant, ça concerne les enfants, ça ne concerne pas d'abord les parents, pas d'abord les enseignants et pas d'abord le lobby touristique. Quand j'ai dit ça, je peux vous dire que ça a élevé le débat public. Et ça a créé des relations entre les enseignants et les parents, souvent, qui s'ignorent, parfois s'affrontent, tout simplement par ignorance. Et ça a créé une vraie dynamique avec, au total, une solution super originale, j'en parlerai peut-être dans le débat, pour ne pas être trop long. Et parce que c'est l'intelligence collective qui fait des propositions. Dernier élément, le plus important, c'est la restitution. Comment restituer en temps réel ce qui se fait dans les conseils participatifs. En d'autres termes, comment éviter le fossé qui se fait entre ceux qui deviennent des spécialistes du débat public et ceux qui ne peuvent pas l'être. Et donc là, je demande à tous les acteurs et la petite équipe qui m'entoure de démocratie, d'élaboration et d'implication, de le soir même, de faire les relevés de conclusion, de mettre sur site internet pour que les gens puissent, en temps réel, suivre ce qui se dit, le débat, et on va alimenter un blog là-dessus pour encore aller plus loin. En réalité, ce qui est commun dans toutes ces démarches, et j'ai oublié de vous parler du pacte civique, mais j'aurai l'occasion de le faire tout à l'heure, de manière forte sur la délibération qu'on a prise. Ce qui est commun à toutes ces démarches, tous ces outils, c'est que toute démarche démocratique a un objet, un début et une fin. C'est très important. Par exemple, la construction de la maison citoyenneté, l'objet, il y a un début et une fin, il y a une évaluation, et il y a une gratification des habitants qui sont du début à la fin et ils voient la décision derrière. La participation des habitants d'avoir un impact réel sur la décision, c'est un principe fondamental. Toutes les ressources démocratiques sont associées de plein pied, je tiens beaucoup à ça. Pas de démocratie à la queue leu-leu. D'abord un peu le conseil citoyen, puis l'administration, puis l'expert, puis ensuite l'élu. Non, de plein pied et pas à la queue leu-leu. Et ce qu'on voit au niveau national, c'est une démocratie à la queue leu-leu. Je trouve que le président Hollande a ouvert un peu plus le débat sur des choses, mais c'est toujours la queue leu-leu. C'est jamais de plein pied et qu'il faudrait généraliser. La maturation et le temps nécessaire sont un facteur déterminant de toute séquence démocratique. Toute séquence sollicite un engagement personnel des membres engagés dans la démarche et le fondement même de la démocratie, que la démocratie est mouvement, c'est-à-dire être capable au départ de se remettre en cause. Dernier élément qui est important dans cette démarche, c'est de susciter le pouvoir d'agir. Parce que là, on est dans un processus décisionnel. Comment susciter le pouvoir d'agir, mobiliser les habitants, et d'abord, comment être bienveillant avec ce qui vient du terrain et qui ne vient pas du conseil municipal? Comment être bienveillant avec des initiatives? Comment être bienveillant pour mettre les salles à disposition pour un concert solidaire pour les migrants? C'est ce qu'on a fait. Et c'est le service culture qui était à l'origine. 600 personnes présentes au moment où c'est pas évident. Urgence Welcome, comment accueillir une association qui milite pour l'aide aux migrants dans la maison de citoyenneté? Comment organiser le débat sur le revenu universel de base qui sera mis à disposition, la maison de citoyenneté sera mise à disposition d'une association mulhousienne? Comment accueillir l'EcoFab Lab qui viendra de militants mulhousiens parce qu'ils ne trouvent pas un lieu à Mulhouse et qui sont accueillis dans des bâtiments communaux qui étaient jusqu'à présent vides et qu'on mettra à disposition d'une association sur toutes ces démarches de savoir-faire, d'échange de savoir, de savoir-faire voilà, et de recyclage. Et puis, il y a le beau projet des Chèdes, une association éco-citoyenne, à qui j'ai mis à disposition un bâtiment qu'on avait préempté pour des raisons de réserve foncière, pour pouvoir développer leur concept de restaurant éco-bio et d'épicerie biologique, et attaché d'ailleurs à un jardin potager bio. Et donc, cette association avait cette idée de faire renaître un bâtiment qui était d'origine textile, comme je l'ai fait pour la salle de spectacle, et puis en même temps en s'engager dans le mouvement de Pierre Rabhi et d'autres mouvements pour avancer. Et on a eu un gros débat à la municipalité. Autant la mise à disposition du vieux local a été possible, mais quand il a fallu, l'association nous l'a demandé 3 ans après, de refaire et de mettre 1,5 million de budget sur la table, c'était un gros débat en interne. Je peux vous dire que ce n'était pas évident. Aujourd'hui, les Chèdes, c'est un rayonnement d'agglomération, ça ressemble à Kingersheim, comme le centre culturel, comme la maison de la citoyenneté, comme le parc des Gravières. Donc pour moi, c'est être capable d'être bienveillant et en même temps d'être capable de susciter. Nous avons mis en place un fonds d'initiative citoyenne pour permettre aux habitants de prendre en compte des actions, d'initier des projets. Et dans le cadre de Agora 1520, nous avons réservé 5% du budget d'investissement aux projets qui seront formalisés par les habitants eux-mêmes sur des petites et des moyennes choses. Nous avons organisé les journées citoyennes qui sont nées à 2 pas de Kingersheim à Bervillers. 700 personnes mobilisées un samedi pour donner un coup de main, être partie prenante de l'environnement de la ville. Nous avons le réseau d'échange réciproque des savoirs qui aussi avance. Voilà. Tout cela, j'ai terminé mes propos, j'ai sans doute été trop long, pour dire que l'enjeu de la renaissance démocratique, c'est de changer de pratique pour pratiquer le changement. Mais au-delà de cela, et j'irai très, très vite, il y a 3 autres axes qu'on développe dans le bouquin, qui est un bouquin collectif vers le de la démocratie. Si on veut changer de pratique, il faut aussi fondamentalement travailler sur la reconquête de la citoyenneté. Je dirais juste un mot, je l'ai écrit sur le post sur Facebook aujourd'hui, sur la question de l'éducation. Il est temps qu'on mette en priorité l'éducation aux habiletés sociales, à apprendre de l'autre qu'il est une chance, l'éducation à la coopération, à la créativité, plutôt que cette compétition rampante qui déjà se développe au plus jeune âge et sous la pression souvent de parents d'ailleurs. C'est un des éléments importants. Évidemment, on ne peut pas faire l'abstraction du statut de l'élu. Nous revendiquons dans notre bouquin un mandat unique dans le temps, renouvelable 2 fois, mais un mandat unique dans la fonction. On peut être maire ou conseiller général, et je suis un contre-exemple puisque j'ai beaucoup cumulé, autant pour moi, mais il a fallu discuter avec les co-auteurs pour comprendre que la question du non-cumul est sans doute la pierre angulaire de la rénovation démocratique. C'est la pierre angulaire. On ne pourra pas faire fi de cela, c'est un sujet central. C'est qu'en France qu'on voit des élus pendant 40 ans. Ça ne se voit pas ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni ailleurs. Et puis à l'organisation des pouvoirs locaux, je termine mes considérations en disant que depuis quelques années, je suis plutôt orphelin politique, même si je reste profondément un homme de gauche, en tout cas un acteur de la transition. J'ai quitté le PS auquel j'ai adhéré en 76, non pas parce qu'il est pire qu'un autre parti, c'est parce que je m'apparais plus un homme libre et peut-être plutôt dans la Renaissance, en direction de mouvement que de choses instituées. Je pense que ce dont a besoin notre société, c'est d'être instituante plutôt qu'instituée. Et je pense qu'on est dans un entre-deux, que le vieux n'est pas mort, que le neuf n'est pas né, et qu'il appartient à un mouvement d'avancer. Par exemple, les Jours Heureux, je fais partie d'un mouvement qui n'est pas encore connu, mais qui va se faire connaître. Les Jours Heureux, c'est le nom du Conseil National de la Résistance, emmené par des gens comme Stéphane Hessel et d'autres, et qui ont réussi des contrats sociaux qu'on est en train de détricoter aujourd'hui. Et dans les Jours Heureux, on propose une constituante, c'est-à-dire forcer les candidats, prochains candidats, à faire en sorte d'entrer dans un processus de constituante qui se terminera par un référendum et dans un processus très élaboré avec un tirage au sort de 1000 citoyens français qui seront ensuite formés, qui font un travail d'expertise, qui seront un moment avec le public et un moment s'enfermeront, comme pour la fumée blanche, pour travailler sur des propositions, sur des principes qui ont été élaborés par les jours heureux. Mais ce qui me paraît important, c'est que au-delà de tout, c'est le rapport aux politiques qui est fondamental. Et moi, j'ai perdu le sens des certitudes. Quand je regarde la télévision, c'est avec beaucoup de distance. Par contre, j'ai trois convictions. Et je dois terminer mes propos par cela. La première, c'est qu'il faut concilier démocratie et exigence. Et je dis souvent, tant que la démocratie est à un stade infantile, il ne faut pas s'étonner que la politique ressemble à une cour de récréation. Deuxième chose, conjuguer démocratie et transformation. Pour faire simple, au statu quo du consensus mou qui finalement sert le notable, il y a la force des compromis dynamiques. Et ça se travaille avec les habitants. Et puis, on peut le partager ou pas, mais je crois fortement, et je crois depuis 20 ans, peut-être aussi par un retournement personnel, par la rencontre de ma propre fragilité, et je pense qu'il n'y a pas de conversion possible sans faire la connaissance de sa propre fragilité, et que la construction d'un rapport modeste au pouvoir passe par ça, eh bien je pense qu'on a intérêt à fertiliser démocratie et spiritualité, qui ne se résument pas à des religions. Les religions peuvent diviser, la spiritualité élève. Et en ce sens, je pense que toutes les idéologies matérialistes, qu'elles soient d'État ou néolibérales ou ultralibérales, ont oublié cette dimension qui revendique le sens, avec la triple acceptation des valeurs, de la signification, de la direction, qui revendique l'intériorité, qui revendique le grandissement personnel, qui revendique le refus absolu de l'inhumain dans le cadre démocratique de la tolérance, de la laïcité. Et je pense que face au consumérisme triomphant, au matérialisme dominant, à la marchandisation des consciences, je crois avec Wittgenstein que la vraie révolution est intérieure et que la première des résistances est spirituelle. Et je voudrais terminer mes propos en citant Vaclav Havel, « La sauvegarde de notre monde humain n'est nulle part ailleurs que dans le cœur humain, la pensée humaine et la responsabilité humaine. »
Un immense merci, Joe Spiegel, pour ce magnifique partage de vie, d'expérience. Tout ce que tu as fait, tenté, réalisé, abouti dans ta commune, dans ta région, l'esprit que tu as su nous insuffler et nous faire partager. Et c'était vraiment l'objet de cette rencontre, de transmettre à nous, Vendôpériens, habitants de l'agglomération nancéenne, un appétit aussi de faire, qui est déjà en route, qui existe. Hein, il y a plein de choses qui se passent, mais on a besoin de grandir, de partager des expériences. Et là, ce que nous avons appris ce soir, je crois, va nourrir notre pensée et nos convictions et les actions à venir. Mais bien sûr, le temps des échanges, parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de projets, beaucoup d'actions par rapport auxquelles on peut avoir envie d'un éclaircissement, mais aussi peut-être, parce que c'est le jeu, hein, des objections, des contradictions dans cet esprit de construction et de partage. C'est pas être tous d'accord, c'est pas être des bénis oui-oui. Donc voilà, on va commencer les échanges avec la salle.
Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a une question qui n'a pas ou peu été abordée, c'est la question de la planète et de la solidarité internationale. Est-ce que vous avez agi dans ce domaine ?
Je réponds tout de suite ou une série de questions ? C'est un sujet qui est important, donc je peux y répondre tout de suite.
Oui, peut-être. Ouais. Peut-être, je préfère qu'on...
Lorsqu'il m'a été confié, j'étais président de l'agglomération mulhousienne, j'ai considéré que la mise en œuvre du plan climat-énergie territorial, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements climatiques, était une priorité. Et que ça pouvait être une chance économique, écologique et sociale et humaine. Et donc, j'ai beaucoup insisté sur la grammaire démocratique que j'appliquais dans ma commune. Et c'est peut-être le seul moment où nous avons pu le faire à l'échelle de l'agglomération. Nous avons passé beaucoup de temps à informer, à donner du sens, et globalement, on essaie de sensibiliser d'une manière ou d'une autre 35 000 personnes par année, soit dans le centre d'initiative à la nature et l'environnement, soit dans des événements, soit d'autres occasions, mais en permanence. La deuxième chose qu'on a voulu faire, c'est débattre de cette question. C'était au moment où Al Gore sortait son film, c'était un des sujets, je ne sais plus le nom d'ailleurs, c'était un outil de compréhension. Et nous avons organisé de nombreuses réunions de débat. Je crois qu'en gros, 5000 personnes ont débattu cette question. Et nous avons organisé un conseil participatif intercommunal qui réunissait des gens qui ne se parlaient jamais, des énergéticiens, des associations, des organisations, des élus, des membres du conseil de développement, etc. Et qui ont travaillé sur la construction du plan climat, du plan stratégique lui-même, qui a été adopté à l'unanimité du conseil d'agglomération. Et puis, considérant d'ailleurs qu'une fois qu'on a décidé les choses, c'est le point de départ, quelle implication ? Et nous avons créé une dynamique autour de 130 partenaires qui sont inscrits, qui ont signé le plan climat. Et depuis, on a réévalué, mais au bout de 3-4 ans, on avait plus de 900 actions répertoriées par intranet, extranet, et qui mesuraient l'investissement de chacun. Je donne un exemple, le Volleyball Club de Mulhouse, qui est un des 2-3 clubs meilleurs de plus haut niveau en France, après Cannes, eh bien, au lieu de donner le fanion, ils ont donné la Climabox qui a été construite par l'agglomération. La Climabox, c'est des outils qui permettent de réduire dans un appartement d'une manière considérable la production d'énergie. C'est les régulateurs d'eau, c'est les lampes LED, c'est plein d'outils, je n'ai plus en tête, mais qui a été confectionné avec les habitants dans une commission de sensibilisation. Et cette boîte, ce qu'on appelle la Climabox, est un outil pédagogique qui a été vendu d'ailleurs parmi les communes et qui faisait partie des cadeaux qu'on offrait aux jeunes mariés plutôt qu'un bouquin ou des fleurs, c'était la Climabox. Donc on a travaillé là-dessus. Je considère d'ailleurs que autant nous avons gagné sur la vision générale, autant à partager le sens, c'est-à-dire qu'on est dans une considération kantienne d'impératif catégorique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre planète, et donc on est sur l'urgence et sur la responsabilité pas seulement horizontale entre nous, mais verticale, et donner au bien commun une dimension nouvelle. Et ça, le sens a été bien approprié par l'ensemble des élus. La question aussi, la question de la territorialisation, le périmètre pertinent d'un plan climat, c'est l'agglomération, c'est-à-dire une agglomération qui ait des compétences fortes de levier de changement, les transports, l'aménagement de territoire, l'habitat, les déchets, toutes des compétences qui sont d'ailleurs très peu concertées. On parle de démocratie locale communale, mais c'est reste un chantier ouvert sur les intercommunalités. Mais c'est des compétences leviers fondamentales. Donc on a décliné au niveau de l'intercommunalité, plus loin au niveau du territoire, le plan climat avec les partenaires, avec la déclinaison par chaque maire selon sa volonté politique, parce que l'Interco, le président de l'Interco n'est pas le super-maire ou le grand-maire, il est simplement le coordinateur des maires dans une perspective de co-construction de politique publique. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, sur le territoire vécu, sur la déclinaison communale, avec des objectifs qu'on a atteints. On a réduit de 13% la production de gaz à effet de serre à l'issue de la première Olympiade, puisque j'aime bien parler d'Olympiade, comme en démocratie, du plan climat. On a travaillé sur une deuxième Olympiade de bilan, de réactualisation, et là, on a remis une couche importante avec l'alliance territoriale pour le plan stratégique, beaucoup plus large que l'énergie, mais globalement écologique, avec 20 grandes actions, 20 grands projets, dont la sensibilisation. Et là, on vient de décider avant-hier de mobiliser 100 ambassadeurs du défi énergétique sur l'agglomération en direction des publics les plus précaires. On est en train de formaliser un schéma directeur de réseau de chaleur, qui sera même encore enrichi par un travail de planification énergétique. Quelles sont les sources énergétiques demain qu'on pourra exploiter au mieux possible dans la perspective de mix énergétique. J'ai proposé à l'agglomération, sur la base du territoire à énergie positive, à croissance verte, dont nous sommes légitimes et éligibles aujourd'hui, d'utiliser les 1,5 million d'euros, non pas pour faire du saupoudrage, non pas pour faire de la com, mais de créer une vraie dynamique en direction du vélo électrique, et que je voudrais voir créer dans une entreprise locale, transmise par les artisans, et avec une location possible pour les habitants, pour un prix modique, pour passer vraiment le cap d'une mobilité douce. et d'autres éléments de ce type-là. Octave, par exemple. Octave est une dimension très importante entre l'isolation des bâtiments, qu'il faudrait massifier et qui serait créateur d'emplois non délocalisables, qui serait créateur de sources d'énergie et d'économie pour les budgets, qui serait créateur de bon sens sur le plan environnemental et de réduction de production de gaz à effet de serre, eh bien c'est trop lent. C'est trop lent parce qu'il n'y a pas assez d'incitations et surtout il faut aussi de l'organisation. Il faut former les entreprises. Et on est en train de former des groupements d'entreprises qui du coup sont en relation entre elles complètement différentes. J'ai assisté à un stage de formation d'artisans qui d'habitude se tirent la bourre, ils travaillent les uns après les autres, alors qu'il faut un travail d'ensemblier pour faire l'isolation des bâtiments. Et là, on a des groupements d'artisans qui sont en train de se former. Ce qui fait que Octave, c'est la plateforme, c'est offrir aux habitants pour l'isolation des maisons, parce que pour les équipements, les immeubles, on a d'autres démarches à travers l'ANA et d'autres éléments. Eh bien, on a la possibilité d'une offre de groupement d'artisans, d'une offre financière à travers une ingénierie financière qui est préparée dans le back-office par la grande région, et puis surtout d'un guichet unique, parce qu'il n'y a pas pire pour des habitants qui ont envie de vendre leur maison, qui ont envie de la valoriser, ce sont souvent des retraités, de rentrer dans le labyrinthe pour savoir quel subventionnement, quelle incitation financière, etc. Donc on essaie de travailler sur une offre qui favorise cette transition. Donc si je ne parle plus jamais de révolution, parce que je ne crois en aucune façon au grand soir, mais je crois à la volonté d'une transition en profondeur. Et ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas du greenwashing. Il y a des collectivités qui peignent les murs en vert et qui mettent un peu de photovoltaïque pour faire du vert. Ce n'est pas du tout notre approche. Mais c'est frustrant parce que c'est un travail de fond. Moi, ça me prend presque autant de temps, moins maintenant que la démocratie locale. Mais c'est un travail de fond, d'impulsion politique, de coups de colère en disant ça ne va pas, où sont les freins ? Ce n'est pas possible, la loi est bonne, mais il n'y a pas pour la mettre en œuvre, c'est compliqué. Les freins psychologiques des habitants. Il y a plein de choses qui font qu'on n'est que dans une transition. Ce qu'on peut faire, c'est d'être des activateurs de la transition. Et puis, tout d'un coup, il y a des choses qui avancent. Le raccordement du réseau de chaleur qui est passé en biomasse aux hôpitaux, qui multiplie par deux la puissance du biomasse au détriment du gaz et du fioul. Donc, c'est des choses qui avancent petit à petit. Un écoquartier que je suis en train de concevoir dans ma commune sur une friche industrielle privée dont le propriétaire est privé et qui, il y a 6 ans, était venu me voir pour vendre son terrain. Il n'avait qu'une chose en tête, c'est le bling-bling, les sous qui rentraient, pique-sous. Il a proposé qu'on fasse un aménagement d'aménager son territoire. Et du coup, j'ai dit, mais attendez, d'accord, c'est une friche industrielle, mais je veux que ça devienne un écoquartier. Du coup, on a créé une démarche élaborée avec une succursale d'ailleurs d'une entreprise, j'oublie le nom, de consultants, pour construire avec les habitants au sein d'un conseil participatif tous les ingrédients d'un écoquartier. Malheureusement, ça a capoté parce que le propriétaire ne voulait pas réduire le prix et le projet était plus économiquement viable. Ça a été repris, malheureusement il est décédé, mais ses enfants ont compris qu'il fallait mettre de l'eau dans le vin. Ils arrivent avec un prix de terrain moitié moins cher, un aménage arrive dans mon bureau en me disant « Monsieur le maire, on fait ce que vous voulez ». Il ne croyait pas si bien dire parce que je dis « Monsieur, je tairai son nom, c'est pas moi qui décide, on travaille avec les habitants sur la base de la charte qui est tous les ingrédients de l'écoquartier. » Et on a travaillé conseil participatif après conseil participatif, dont un qui était couvert par la presse, et un clash à un moment donné entre l'architecte, à mon avis, qui n'était pas vraiment formé au développement durable, c'était plutôt un architecte un peu commercial, ça existe aussi. Je lui ai rappelé qu'il n'y a pas d'écoquartier avec des voitures dans l'écoquartier, et que moi je ne signerai aucun papier parce qu'au niveau du PLU, on se donne les moyens d'accorder à condition que le projet nous satisfasse. Et le projet nous satisfait si les habitants et les experts nous disent qu'il est bon. Et donc j'ai imposé l'idée de silos à l'entrée de l'écoquartier, notamment, et c'était le point d'attache le plus dur, c'était un peu un bras de fer, mais ils ont compris que je ne céderai pas là-dessus. Donc voilà, donc il y a de la volonté politique, il y a une vraie transition, il y a l'idée que le local, c'est le global, que ma commune est un coin de la planète et que ça élève le degré de responsabilité des élus locaux que nous sommes. Excusez-moi d'avoir été un peu long.
Je voulais parler dans le même sens un petit peu sur le local et le global. Non, je suis là. Ah. Et d'abord, un grand merci pour ce grand cru Spiegel. Il y en a trop là-dedans. Je voulais parler donc du temps long et du temps court avec Kingersheim comme épicentre. Mais d'abord, une petite remarque. Le Stammtisch, c'est les mecs qui sont au bistrot. Pendant ce temps-là, les femmes, elles sont au café Krenzel.
C'est vrai.
Alors, il faut une convergence entre les deux.
C'est prévu.
Est-ce que pour les enfants, le temps des enfants, vous avez interrogé un peu les enfants aussi ? Et puis encore, je suis sûr qu'il y a une blague chez vous, là. Le local, le bocal et le bocal. Et alors, non, mais je voulais parler du temps long et du temps court, parce que, par exemple, pour les arbres, c'est un des rares endroits où la fiscalité a été obligée d'être spéciale, parce qu'on ne peut pas récolter, j'aime pas beaucoup le mot, hein, récolter un arbre avant 30 ou 70 ans. Cet été, moi, j'en ai vu qu'il y avait 400 ans, il se portait très bien. Et pour les enfants, hein, quand on travaille... ce qui aura des effets pour les enfants. On prend des mesures pour des enfants de 5 ans, de 10 ans, qui porteront des fruits quand ils auront 15 ans ou 30 ans, qu'ils auront eux-mêmes des enfants. Mais le mandat des politiques fait qu'ils s'en désintéressent complètement. Bon, alors je voulais revenir simplement là, pour faire le lien entre Kingersheim et la planète. Vous avez parlé des mines de potasse. Ça fait 30 ou 40 ans que les Hollandais se plaignaient que le Rhin était salé. Bon, on les a fermés, mais vous pourriez éclairer, c'est vraiment le moment d'expliquer aux gens d'ici et de Bure ce qui s'est passé avec Stocamine. Et puis vous n'êtes pas loin de Fessenheim. Hein. Donc, les déchets nucléaires, ce n'est pas 50 ans, ce n'est pas 100 ans, c'est 3000 ans, c'est 4000 ans. Donc ça, c'est le temps long. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Mais si vous avez des éléments à donner ici sur ce qui s'est passé avec Stocamine, ça serait bien.
J'avoue que j'ai un peu la tête pleine, et Stocamine, c'est tellement un sujet complexe que le résumé en quelques mots, c'est en fait utiliser les mines de potasse pour stocker les déchets toxiques. Voilà, c'est un grand débat entre les experts et qui ensuite, évidemment, avec l'expert qui disait, il n'y a rien qui peut se produire, puis il y a un bloc un élément de stockage qui a commencé à brûler, qui est catastrophique. Donc on a dépensé beaucoup d'argent pour stocker les déchets et autant d'argent pour le sortir, alors que d'autres alternatives n'ont pas été construites, clairement. C'était vraiment là aussi une démarche technico-politique qui méritait d'ailleurs autre chose qu'un affrontement systématique. D'ailleurs, c'était important qu'il y ait des associations locales qui se soient mobilisées là-dessus pour sortir par le haut. Donc c'est un exemple encore incroyable, comme la fermeture de Fessenheim. Je crois savoir qu'il y a un peu de volonté politique au départ, mais aucune méthode. J'avais d'ailleurs proposé à celui qui est devenu très rapidement le médiateur du terrain, il m'a peine entendu, c'est un sujet majeur, fermer Fessenheim pour donner à l'Alsace d'être pionnière en matière de ressources nouvelles et ressources énergétiques non fossiles et renouvelables. C'était une chance fantastique. Quand je vois certains élus vent debout pour des raisons de corporatisme de maintenir Fessenheim, c'est juste à hurler. C'est juste un sujet de bon sens à construire ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui meurt, il y a quelque chose qui renaît. Et on ne sait pas en France faire décroître une activité atomique, nucléaire, au profit progressivement de la montée en puissance des énergies renouvelables. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le scénario négawatt de Thierry Salomon montre bien ce qu'il faudrait, de mobiliser à la fois la sobriété, la substitution énergétique, mais aussi l'efficacité énergétique. Donc on est vraiment sur des sujets majeurs sur lesquels j'aurais aimé pouvoir débattre. Si j'avais été président de région ou départemental, je pense que j'aurais pris le fer de lance pour prendre à bras-le-corps cette question-là. Ça pose aussi d'ailleurs la question du périmètre démocratique. Est-ce que quand on parle de Fessenheim, on discute uniquement avec les employés de Fessenheim, ou est-ce qu'on discute à quelle échelle du territoire? Transfrontalier, pas transfrontalier, jusqu'à Mulhouse, jusqu'à... C'est des vraies questions, la question de démocratie. Par exemple, sur un espace de jeu, si j'avais discuté qu'avec le premier périmètre des espaces de jeu, c'est non à l'espace de jeu. C'est pour ça que la composition d'un conseil participatif, c'est ceux qui sont directement concernés, doivent être entendus. Et puis le second plan, le problème, c'est que le second plan, ils sont contents quand on arrive à gérer le problème, et puis voilà, ils ne sont souvent pas là. Donc c'est aussi une question de sur quel périmètre on discute. Regardez sur l'aéroport, il n'y a même pas eu de débat sur le périmètre, ça méritait de réfléchir, quel périmètre de discussion, quel est le périmètre concrètement de débat. C'était encore fait de manière à la hâte, sans vraiment conviction. Voilà. D'autres questions?
Oui. Marche. Moi, j'avais deux questions très pratiques. La première, c'est quand est-ce que l'émission auquel vous avez fait allusion va passer à la télé? On m'entend là? Je sais pas.
Oui.
Et la deuxième, alors je suis désolée de rabaisser le niveau, mais moi je suis tout à fait convaincue, enthousiasmée par ce que vous dites. Mais je fréquente beaucoup de gens, et vous le savez, qui sont majoritaires, qui considèrent que c'est de l'utopie. Et si je fais des tasses que j'ai entendues ce soir. Je sais ce qu'ils vont me demander, donc je vous pose la question. C'est comment c'est possible, comment ça tient dans un budget, hein. Vous avez dit qu'il ne faut pas ensuite décevoir les gens, il faut passer à la réalisation. Donc je vous posais une question toute simple, c'est est-ce que vous avez un budget très supérieur aux autres communes comparables, ou est-ce que vous arrivez à fonctionner de cette manière avec des impôts, etc., comparables aux autres communes?
Vous avez bien compris, madame, que dans la dimension démocratique que je revendique, ce n'est pas répondre aux besoins immédiats des gens. C'est d'avoir une vision et des équipements qui sont aujourd'hui nécessaires, ce qui fait que ce mandat, c'est un mandat d'embellissement de la ville, d'entretien des bâtiments publics. On a à peu près les équipements qu'il faut, normalement pour une ville, avec les services publics auxquels je tiens. Il est hors de question de réduire la politique culturelle et éducative, c'est au cœur du projet. Donc voilà, il y a une affirmation politique. Sur le budget, commune de 13 000 habitants, en fonctionnement, et les élus ici pourront comparer, la modestie du budget, c'est 11 millions d'euros. La ville voisine de 13 500, Wittenheim, c'est 14 millions d'euros. Une ville de 15 000 habitants à côté, c'est 16 millions d'euros. Et une autre ville de 15 000 habitants, c'est 19 millions d'euros. On est en bas de budget de fonctionnement, avec un budget d'investissement qu'on a réussi à réaliser grâce à des aides européennes. Enfin, c'est débrouillé pour... Parce que aussi la pertinence du projet, hein, faut pas croire aux élus qui disent je vais chercher les subventions. Les subventions arrivent quand les projets sont bons. D'abord, c'est la première condition. Sur la question de l'impôt, ne nous moquons pas des gens. Quand j'ai été élu en 89, pour la première fois, Kingersheim avait les taux d'imposition les plus bas avec Neuilly. Mais il n'y avait rien. Il y a une salle de fête qui était un vieux truc, une salle polyvalente, et les écoles étaient toutes à refaire, en gros. Quand je suis arrivé à responsabilité, sur le thème « Ensemble bouge dans notre ville », j'ai augmenté la première année les impôts de 30% et la deuxième année de 15%. C'est-à-dire que ça représente un tiers des impôts que globalement on paye en France. C'est-à-dire qu'on était tellement bas que... Voilà. Et à chaque renouvellement de mandat, j'ai dû réajuster, et à chaque mandat, nous avons été élus à plus de 60% au premier tour. C'est-à-dire que les gens savent que lorsqu'on utilise à bon escient l'argent public... Aujourd'hui, les impôts locaux à Kingersheim sont à moyenne basse des communes comparables. Simplement, les gens ont retenu, les plus critiques ont retenu l'évolution, parce que tout simplement, on partait à un taux de 4%, quand les autres communes étaient à un taux d'imposition de 11 ou 12%. Rattraper ça. Et du coup, je n'ai pas fait d'autofinancement, parce que je ne thésaurise pas l'argent public. Je veux que les services existent pour la génération d'aujourd'hui, et que les investissements soient faits. Donc là aussi, il y a la volonté de parler vrai, et il y a aussi... la volonté de montrer le sens et la vision qu'on peut avoir. Donc la démocratie de participation n'est pas un activateur de dépenses, c'est un outil de sobriété budgétaire. Parce que quand vous faites avec les habitants, vous faites de l'intelligence collective, vous vous plantez rarement sur les investissements. Je peux vous dire que tous les investissements qu'on fait sont justes parce qu'ils ont été intelligemment construits avec les habitants. Ce n'est pas un truc qui est fait dans mon cabinet, avec un technicien, avec... voilà. Donc... bien gérer l'argent public, c'est d'abord écouter les gens et dans la construction du projet. Donc il faut ôter l'idée que la démocratie de participation est une démocratie de démagogie. C'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, avec les petits budgets qu'on a, si on a fait Agora 15-20, c'est justement pour que les gens puissent travailler sur des petites questions qui embellissent les gens. Je donne un exemple. On a fait un grand équipement de sportifs. Évidemment, ça fait les joies des gens, des gymnastes, etc. Mais j'ai trouvé plus de plaisir au club de volley à ce qu'on lui ait fabriqué un bar sur le côté de la salle où ils peuvent vendre leur pâtisserie le dimanche après-midi qu'un grand équipement. C'est les petits bonheurs qui créent aussi du lien. Donc c'est ça qu'on est en train de jouer. D'ailleurs, je trouve que c'est bien de travailler sur le vivre ensemble avec comme objectif une sobriété dans les dépenses publiques et l'activation des ressources citoyennes. Donc voilà, donc tous ceux qui disent démocratie de participation, si la démocratie de participation, c'est l'addition des envies, la multiplication des désirs, la somme des égoïsmes et la multiplication des peurs, alors c'est sûr que c'est un budget incroyable. Mais quand la démocratie de participation, c'est mettre les gens en responsabilité avec le maire pour tenir compte du périmètre existant et possible, le domaine du possible, c'est-à-dire le budget, les règles, la disposition foncière, alors c'est plutôt une approche de sobriété que je souhaite heureuse.
Oui, je repose la question que madame avait posée au début, c'est quand est-ce que l'émission envoyée spéciale sortira?
Alors, ils ont commencé avec le débat public et je pense que Alice Gauvin va venir plusieurs fois et terminera son documentaire, le film, si vous voulez, fin décembre, au moment où on va prendre la décision sur le lieu de culte. Donc, a priori, puisque j'ai en préparation un bouquin qui sortirait sans doute au même moment, ça devrait sortir vers janvier-février.
D'accord.
Et je voudrais faire un bouquin iconoclaste à l'approche des présidentielles.
D'accord. Je suppose que vous avez des contacts avec Alexandre Jardin, du Jardin.
Il viendra le 3 novembre à Kinyersheim.
Et ça sera aussi diffusé?
Non, mais là, c'est pas télévisé. Peut-être que la télé sera là, je ne sais pas. En plus, c'est une télé, en fait, une équipe super de pros d'investigation. Et ce n'est pas moi qui demanderai, comme d'autres, de ne pas projeter le documentaire ou déplacer dans le temps, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord.
Voilà. Donc, je trouve que c'est d'abord très exigeant pour nous. Et j'ai mis les services à disposition pour qu'elle soit aidée, mais elle est dans l'autonomie. Je trouve qu'il y a un travail de recherche, d'investigation. Ce ne sera pas l'honneur du maire, hein, je ne pense pas. C'est l'idée de dire, sans doute, l'idée, à mon avis, qu'elle va sortir, c'est qu'il y a une ville qui tente le coup, mais que c'est difficile, ce n'est pas évident, que le maire aussi doute, qu'il a des moments d'inquiétude. Que je pense que c'est ça qu'elle va dire.
Mais est-ce que vous êtes la seule commune en France à être sur ce mode de...
Non. Non, il y a des communes. Il y a des communes comme Saillant qui emblématiquement on communique beaucoup dessus. Il y a des communes comme Grenoble. Je pense que Vendeuve a fait un gros travail. Il y a d'autres communes. Mais la force en fait de ce qu'on fait, c'est il y a une cohérence et une exigence forte.
Oui, voilà.
Et une implication personnelle forte. Et c'est, en ce sens, je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas une opposition, une asymétrie entre le fait d'être un leader et la participation. Autant je ne crois pas aux politiques sûres et le haut et le bas, autant je pense qu'il faut de l'impulsion et que cette impulsion peut être multipliée par les adjoints, par les agoracteurs. Et c'est important. Moi, j'ai plus que ce mandat, en fait, mis à part la transition énergétique sur l'agglomération. Mais j'ai même plus le temps de faire du vélo. Moi, qui faisais 8000 km par année, je suis à 300 km cette année. Donc, quelque part, c'est un bon indicateur. Ça me prend un temps fou parce qu'on travaille sur... On est en train d'explorer tout ce qui était la base. Et une fois que vous êtes entré, la mayonnaise est en train de prendre, si vous voulez. Et donc, du coup... C'est beaucoup de disponibilité, beaucoup d'écoute et de mobilisation, d'ingénierie, d'invention, d'inventivité, et c'est important. Et je pense que ce mouvement va se prolonger, par exemple, sur l'agglomération mulhousienne. Il y a eu un vrai problème de gouvernance, et je ne vais surtout citer personne, mais il y a un vrai problème de gouvernance. Les maires ne se reconnaissent plus, il n'y a pas un travail collectif, c'est assez impersonnel. Et j'ai proposé une gouvernance de type de ce qu'on fait... sur Kinyersheim, avec des instances qui soient bien qui fait quoi, un camp de base, une plaque pivot, un bureau qui organise, des comités de projet pour toutes les questions en jeu, c'est des choses qui n'existaient jamais. Donc on est en train de prendre. Et puis il y a d'autres communes. Demain soir, je recevrai une commune alsacienne, Uffolz, qui viendra avec son conseil municipal pour voir. Vendredi, je suis à Saint-Brieuc devant les personnels, l'administration de Bretagne. Un collègue maire, mon ami Loïc Corret, qui m'a invité à venir parler, il faut qu'il s'attende à un discours un peu costaud et assez critique par rapport à la réforme territoriale, comme je l'ai commencé à le faire tout à l'heure. Voilà, donc je pense que le mouvement est en marche, ça mettra beaucoup de temps, on est vraiment dans une transition, mais ça commence. Ça commence.
Merci.
Tout d'abord, bien, merci d'abord d'autant de références intellectuelles. J'ai entendu Vaclav Havel en dernière citation, mais aussi Mounier, Rosan Vallon, Stéphane Hessel. C'est tellement rafraîchissant d'entendre un élu qui est capable de citer ces grands penseurs. J'ai deux questions. La première, vous avez évoqué la question du numérique et vous avez évoqué des réticences à propos de ces questions de numérique. Je souhaiterais avoir votre avis comme comment on peut utiliser cet outil potentiel ou non dans la question de la démocratie locale. Et ma deuxième question porte justement sur ces échelles territoriales qui ont l'air de vous porter à cœur. Je voudrais savoir comment, basiquement, on fait démocratie à l'échelle de l'intercommunalité, du département, de la région ou même de l'Europe. Merci.
Sur le numérique, on démarre. Donc je suis en train de recruter une chargée de mission de l'épanouissement des valeurs et des pratiques démocratiques. C'est un poste pour moi clé qui remplace le directeur de cabinet politique. Moi, je ne suis pas dans la politique politicienne, mais je suis dans l'élaboration des valeurs et des pratiques démocratiques. Et notamment dans le profil, j'ai souhaité une personne qui nous alimente sur la question du numérique. Je suis intervenu sur les interconnectés à Lyon. J'ai été très réticent parce que je crois que le dialogue passe aussi par la présence physique. Cette dimension humanisante du dialogue, ça me paraît très important. Et je ne pense pas que le numérique soit en capacité de changer ce mouvement de coproduction qui se fait dans le temps avec les habitants et parmi les habitants. Alors j'imagine que le numérique peut être intéressant dans une forme de démocratie d'interpellation où le citoyen peut être citoyen à minuit parce qu'il ne peut pas venir à la réunion publique. Donc je pense qu'on va essayer de voir quelles sont les niches potentielles qui puissent apporter, enrichir la question démocratique de la commune. Mais c'est sous cet angle-là qu'on le voit et pas sous l'angle d'un artifice ou d'application qui rendrait encore plus consommateur l'habitant. Parce que je sais, il y a plein d'applications aujourd'hui, monsieur le maire, là, il y a un truc coupé, et hop, on doit réagir tout de suite avant même que la question soit posée. Ouais, pourtant, on est organisé dans le service public. Donc, on a une réflexion a priori, c'est un adjoint qui va démarrer dans le cadre d'Agora 15 Mat. Démarrage, 50 habitants sont intéressés à cette question, on va réfléchir avec eux, et on va travailler avec les techniciens, avec les habitants, pour voir comment le numérique peut enrichir l'exigence démocratique, pour résumer. Sur les échelles territoriales, je pense que, évidemment, au niveau territorial et local, c'est plus simple d'appliquer ce que je dis. Et même malgré cela, c'est compliqué, parce que moi, c'est une ville plutôt polycentrique, j'ai pas beaucoup de bistrots, j'ai pas de centre-ville, c'est une ville périurbaine, compliquée, surtout des maisons individuelles, souvent du repli individualiste, donc c'est pas simple. Mais c'est quand même plus facile de faire avec les citoyens quand on est auprès d'eux. Ça n'empêche qu'à l'échelle, et là on renvoie à la question de savoir quelle république décentralisée demain, quelle échelle de territoire pertinent. Alors clairement, mais il ne faut pas que ça fâche les élus départementaux ici, si j'ai milité pour l'évaporation des conseils généraux au profit d'un conseil d'Alsace unique et de plus de local, c'est qu'en Alsace c'était possible. Je pense que dans le bouquin on propose deux scénarios en rural, où le département peut avoir encore une importance à condition que ce soit animé par une sorte de sénat de l'intercommunalité, ça évitera de multiplication d'élus. En zone urbaine, l'échelon régional et l'échelon commune-communauté, c'est-à-dire le bloc local, à condition qu'on y mette une disposition et un état d'esprit démocratique. L'échec du référendum du Conseil d'Alsace unique est fait simplement du fait qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Et j'avais rencontré Philippe Richert, qui est président du Grand Est, qui est une sensibilité politique qui n'est pas la mienne, mais que je suis allé rencontrer 3 ans avant le référendum. J'ai depuis longtemps plaidé, quand j'étais conseiller général, à l'évaporation de ma propre assemblée auprès d'un conseil d'Alsace unique et de plus de force au niveau des territoires, avec évidemment la répartition des compétences et des personnels aux deux niveaux d'échelle. Il ne s'agit pas de, contrairement à certains qui pensent qu'il faut absolument sabrer les fonctionnaires, c'est absolument pas mon idée, mais il faut les mettre à la bonne échelle. Et donc, je suis allé rencontrer Philippe Richert. Il ne m'a pas écouté, mais je ne m'ai même pas pu parler une seconde. Il m'a tellement parlé de haine du président du conseil général du Haut-Rhin qui ne voulait pas du conseil d'Alsace unique, je n'ai même pas pu placer un mot. Et en plus, comme il me prend pour un utopiste, l'utopie d'aujourd'hui n'est jamais que la réalité de demain. Il a fallu aussi quelques utopistes pour que les choses changent. Et entre nous, dans ma commune, on me prend moins en moins pour un utopiste parce que ça se concrétise sur le terrain. Il y a des miracles qui se font, miracles entre guillemets, il y a des choses qui se prennent, la mayonnaise qui prend. Donc entre le rêve et la réalité, on se rapproche de la réalité. Mais Philippe Richert, je lui avais dit, le référendum, on va se planter. Il y a eu 58% d'Alsaciens qui étaient pour, mais le quorum n'a pas été atteint. C'est-à-dire, on n'a pas créé le désir démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fait des réunions publiques avec des aficionados dans la salle, ceux qui étaient convaincus, parfois des centaines de personnes. Les élus ont ajouté de discours à discours, pas de place au débat, et le débat n'a pas eu lieu. Et lui est sorti de réunion en réunion, je l'ai vu, il était super, super confiant. Il m'a dit, l'Alsace me donne 82% d'options et tout. Sauf qu'il s'est passé, dans les 15 derniers jours, ils n'ont même pas concerté avec le personnel communal, départemental, ni dans le Bas-Rhin, ni dans le Haut-Rhin, ni avec la région, ni avec les intercommunautés qui nous ont considéré comme monnaie courante. Parce que s'il avait commencé le débat à dire qu'il faut donner plus de pouvoir au local pour te prendre au niveau régional que ce qu'on ne peut pas faire au niveau local, je pense que les gens auraient eu moins peur de dire que tout va être concentré à Strasbourg. Et donc, tout d'un coup, les 15 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Le levier principal de tout frein à la démocratie, c'est la peur. Et du coup, dans les zones rurales et dans les zones périurbaines où on vote beaucoup Front National, vous avez des électorats qui sont peu considérés dans ma commune. J'ai un électorat très puissant du Front National qu'on ne voit pas aux élections locales en particulier, mais qu'on voit aux élections qui n'ont pas d'importance départementale et d'autres, viennent se défouler, ils ne viennent pas voter pour une personne, ils ne connaissent même pas le candidat, ils mettraient un âne à la place, c'est pareil, le résultat est le même. Mais c'est des gens qu'il faut entendre. Et du coup, la peur a été de plus en plus puissante. Et on s'est retrouvé le dimanche, alors que la veille, tout le monde pariait sur la réussite du référendum, qui aurait d'ailleurs changé la nature de la réforme territoriale des régions en France, complètement changé la donne, eh bien, on s'est planté. On s'est planté parce que moi, j'aurais proposé, pour maintenant répondre à votre question, on aurait parfaitement pu utiliser cette grammaire dont je parle. D'abord, se donner le temps de l'information. La presse locale était prête, elle était dans les starts, ils avaient envie, parce qu'eux-mêmes étaient convaincus de ça. Ils avaient envie de développer des scénarios, d'expliquer ce qu'il en est. Le problème du soir du vote même, il y a des gens qui sont venus me voir, « Monsieur le maire, on vote contre, hein, parce qu'on veut vous garder comme conseiller général, alors que j'ai milité pour l'évaporation du conseil général au profit de conseil d'administration. » Pour vous dire que les gens s'agrippent à ce qu'ils sentent le plus proche, et ils ne savent pas qui fait quoi, franchement, quand les gens viennent, qui décide du maire, du conseil général, du président de l'aglo, de la région. C'est juste ça aussi la raison de la réforme territoriale nécessaire. Et donc, moi, j'ai proposé une information. Après, j'aurais proposé que par bassin de vie, des vrais débats, mais pas des débats comme ici, là, je suis là, et puis le public, mais des débats avec, en cercle, avec des forums ouverts, avec des questions, avec des vrais débats contradictoires pour permettre aux gens de faire émerger la parole, la contradiction, la crainte, tout ça. Rien de tout ça. On aurait pu ensuite créer un conseil participatif alsacien avec des élus, mais pas que des élus. Comment imaginer que les élus décident de leurs propres institutions comme si les institutions leur appartenaient? Ça aurait été l'occasion de créer un conseil participatif, peut-être de 300 personnes, avec des élus, des habitants tirés au sort, des membres du conseil de développement des agglomérations, des membres du CESER, et puis des organisations, des juristes, des urbanistes, des géographes qui n'ont même pas été entendus et qu'on aurait travaillé sérieusement en parlant du fond du sujet. On faisait sortir la fumée blanche que le jour on proposait non pas un scénario, mais deux ou trois. En fait, le référendum aurait été une consultation avec trois idées, par exemple le statu quo, la dimension la plus exigeante, par exemple la plus ambitieuse, et puis un moyen terme, pour permettre aussi aux gens de dire ce qu'ils veulent. Voilà, rien de tout cela a été fait. C'était le schéma classique, ce que j'appelle le vieux, ça ne veut pas confondre avec l'âge, mais la vieille politique, et on ne fait pas de la vieille politique du neuf. Et je pense que vraiment, la démarche a créé les conditions d'un résultat négatif. Donc on peut parfaitement appliquer cette démarche-là au niveau régional. Je pense même au niveau national, et je ne veux peut-être pas satisfaire tout le monde dans la salle, mais personnellement, je pense qu'il est temps qu'on change de mode électoral, où au bout du compte, on arrive à un camp qui a de responsabilité contre tous les autres camps. C'est-à-dire, c'est toujours le noir ou blanc, le bon et le méchant. Toujours, mais toujours, c'est un affrontement systématique et la réforme n'est pas possible. Et donc, moi, je proposerais, d'autres le font d'ailleurs, un vote proportionnel, tous les risques que ça a, mais qui permet ensuite des majorités d'idées et des coalitions d'idées sur des objectifs qui sont structurels. La question de la retraite, ça passerait mieux si on est capable de s'entendre, d'aller au fond du sujet. D'autres sujets sur la sécurité pourraient aussi faire l'objet de coalitions, au sens non pas seulement électoral, mais de construction de compromis. Alors on va me classer comme centriste, je ne sais même pas où je suis. Un jour j'ai écrit un Facebook, je suis plus centriste que les centristes, plus écolo que les verts, plus gaulliste que les républicains, et voilà. D'une certaine manière, je m'en fous de l'appartenance. C'est que quelque part, il faut qu'on arrive à une radicalité du possible, de parler vrai, de voir ce qu'on peut faire ensemble. Moi, Mélenchon, il y a peut-être des gens qui aiment Mélenchon, je l'adore, c'est un super orateur, mais ce n'est pas réalisable. Mais tout le monde le sait. Ou alors on est dans un monde coupé du reste du monde. Donc je m'engage peut-être en disant ça, parce que je trouve plutôt intelligent, plutôt dans une forme de révolution, mais je pense l'expérience qui est la mienne, je sais qu'il y a des contraintes, et je suis un homme de progrès, je sais qu'il y a des contraintes, je ne peux pas faire ce que je veux, j'ai des budgets qui sont là. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je dis, qu'il y a peut-être à réfléchir, avec peut-être un mouvement de constituante dans le pays, et j'espère que les jours heureux, on arrivera à convaincre ça pour que ce soit des citoyens, pour les citoyens, avec les citoyens, qui créent les conditions d'une 6e République.
Bonsoir Lionel. Alors effectivement, je vous remercie parce que je trouve que vous donnez beaucoup d'espoir qu'on puisse effectivement faire autrement. Alors bon, ce que vous proposez peut toujours forcément être critiquable, mais en tout cas, moi j'adhère à fond à la majorité de ce que vous dites. Et justement, à ce propos, vous utilisez beaucoup de concepts, le temps long, ce qui est d'ailleurs marrant de la part de quelqu'un qui parle aussi vite, le tirage au sort et des choses comme ça qui me font penser à la décroissance, mais vous n'avez pas prononcé ce mot. Donc je voulais savoir si vous étiez plutôt pour ce concept et cette vision des choses. Et puis une toute petite question un peu plus légère, mais où vous pouvez juste répondre par pour ou contre. savoir si par rapport à la transition énergétique, vous êtes pour ou contre le compteur Linky. Merci.
Alors c'est une question qui devait être posée en tant que maire, le compteur Linky. On a essayé d'apporter la réponse des 60 millions de consommateurs, qui est une réponse argumentée. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas donner de réponse. Et je trouve d'ailleurs qu'il n'appartient pas toujours au maire d'avoir la science infuse. Je m'interroge. Je pense plutôt que ce n'est pas dans une logique qui est exprimée par les opposants, je ne crois pas. Il faut aussi éviter des expressions qui sont souvent aussi des expressions de peur, souvent injustifiées. Pour côtoyer beaucoup les énergéticiens avec lesquels je suis très critique, souvent, ils le savent, mais je sais aussi qu'il y a de la bonne volonté parmi ces gens, il n'y a pas d'un côté... Donc Linky, on a fait un dossier dans Kingersa Magazine permettant aux gens de juger d'eux-mêmes et de rappeler qu'ils peuvent refuser personnellement d'accueillir Linky. Ça n'empêche pas qu'il y aura des émetteurs, enfin voilà. Donc en tout cas, ce qui me paraît important, c'est qu'à un moment donné, plutôt que de donner réponse aux habitants, en tant que magicien, souverain, etc., permettre aux gens d'appréhender les différentes choses dans leur complexité. Voilà. Sur la décroissance, moi je réponds comme Edgar Morin, je suis pour la décroissance de ce qui est inhumain et je suis pour la croissance de ce qui est humain. Et d'une certaine manière, tout s'en suit par rapport à ça. Et on développe là-dessus parce qu'évidemment, il faut une décroissance économique, mais qui soit autre, qui soit un nouvel enjeu écologique, qui ne soit pas un enjeu de destruction, qui ne soit pas un enjeu productiviste. Mais quand vous regardez le film Demain, il y a des choses qui se font. Dans ma commune, les chèdes ont créé 17 emplois, des gens qui n'étaient pas employés. L'efficacité énergétique dans les bâtiments, ça peut créer 1500 emplois non délocalisés sur 20 ans à Mulhouse, sur l'agglomération. Donc il y a juste une révolution économique qui est en train de faire, pas seulement numérique, mais aussi écologique, qui est une vraie chance. Et si en ce sens, je me dis qu'on n'a pas assez saisi ça, qu'il fallait aller plus vite pour changer, pour créer des moteurs de formation, de créer des transitions plus rapides. Et donc, oui, la croissance, à condition qu'elle soit verte, qu'elle soit compatible avec la planète, qu'elle soit source d'humanité, cette croissance, je la revendique. Et si on peut faire décroître la haine, si on peut faire décroître tout cela, je suis pour la décroissance aussi.
On arrêtera le débat dans un quart d'heure, de façon à avoir le temps de profiter, de continuer la discussion avec l'apéritif, le petit lunch là qui est préparé. Et puis donc Joe Spiegel aussi pourra vous proposer les livres, enfin le livre collectif, l'ouvrage collectif qui est un petit peu un guide de tout ce qu'il faut faire. Donc pour le quart d'heure qui reste, si on peut essayer d'avoir des questions qui ne soient pas trop longues et puis des réponses également pas trop longues, parce qu'il y a plein de gens qui veulent poser des questions.
Et puis il faut que je rentre ce soir encore. Hein.
Oui, et puis oui, parce que également il faut penser à notre orateur.
Monsieur Spiegel, merci déjà pour d'autres termes, notamment l'humilité et puis l'ouverture sur autrui qui permettent beaucoup de solidarité. Alors j'ai deux questions et remarques. La première, c'est le temps long, le temps court, le temps médiatique et le temps politique qui ne sont pas dans un même espace-temps. Comment est-ce qu'on peut imaginer une démocratie participative dans le cadre de crises, notamment on a eu la crise financière, la crise migratoire. Comment est-ce qu'on peut s'insérer dans une démocratie comme vous l'imaginez dans ces cas de figure-là? Et puis sur ce que vous avez lancé, les jobs d'été au tirage au sort, je suis un petit peu surpris puisque le fait d'accueillir dans sa municipalité, enfin dans les effectifs, et pouvoir les choisir, c'est aussi en tant que maire inculquer certaines valeurs, c'est la représentation. Donc pourquoi être passé sur ce mode et est-ce que vous pourriez aussi imaginer ce mode pour d'autres emplois que juste un job d'été qui est dans un temps très court? Merci.
Alors merci pour cette question parce que pour les jobs d'été, on était au tirage au sort strict. Mais ensuite, on s'est rendu compte que certains jeunes tirés au sort n'étaient pas du tout dans la volonté de bien faire leur job. Et donc, il y a un deuxième passage après, c'est devant un jury, composé de collaborateurs de la mairie, qui évalue le degré de motivation. Et on a pu, en effet, c'est important de le dire, parce que c'est évidemment, et c'est pas que le tirage au sort, mais en tout cas, c'est important quand même, symboliquement. Mais le deuxième passage, c'est quelles sont vos motivations? Est-ce que vous êtes vraiment disponible? On le voit d'ailleurs dans la capacité qu'ont les jeunes de répondre aux courriers qu'on leur fait sur les informations qu'ils doivent nous fournir. Et on a dû, dans l'expérience des dernières années, éconduire l'un ou l'autre, parce qu'ils n'étaient pas du tout dans l'image. D'ailleurs, je l'ai dit, vous représentez la mairie, le service public, et voilà. Donc il y a le tirage au sort et ensuite une sorte de jury. Sur le temps médiatique, j'aurais envie de dire que une vraie logique de démocratie de participation, je préfère parler d'élaboration d'application, devrait éviter la crise. Et ce n'est pas l'inverse. Sauf que, et là je vois les limites de la démocratie, c'est que pour le moment, avec tous les efforts que je fais au niveau local, ça n'empêche pas la puissance financière de continuer à s'exercer. Ça n'empêche pas au monde de faire tel qu'il est. Donc, moi, je ne peux pas répondre aux questions qui ne sont pas de ma compétence. Je suis simplement modestement le maire d'une commune de 13 000 habitants. J'essaie de faire en sorte que le global s'inscrive dans ce que je fais, mais je n'ai pas une réflexion politique suffisante pour dire comment, à l'échelle mondiale, face à la puissance financière, j'entends des gens comme Gaël Giraud et d'autres qui sont sur des alternatives ou des alternatives économiques, mais je ne peux pas en parler sciemment avec beaucoup de... ce que je sais, c'est que la démarche de plein pied avec toutes les ressources sont importantes, mais que face au mur de l'argent, c'est compliqué. Voilà. Donc il faut peut-être en sorte qu'on s'organise à l'échelle mondiale, certainement, un jour un gouvernement mondial qui prenne le pas sur la puissance, que l'Europe doit vraiment retrouver la source de ses inspirateurs, une Europe politique, une Europe sociale, une Europe de la défense, une Europe qui parle aux Français et aux différents peuples, et que la démarche de participation me paraît fondamentale. Et peut-être de ce point de vue-là, les mouvements citoyens auront un rôle à jouer, très important. Je pense qu'il y a des moments dans l'histoire où les mouvements citoyens, où l'indignation peut jouer son rôle. Malheureusement pas par rapport à la puissance financière qui est ailleurs, qui peut, où le mec peut se décider de fermer une entreprise depuis Taïwan et fermer une entreprise en Bourgogne. Ça, je suis impuissant par rapport à ça. Voilà. Donc, autant que faire se peut, dans les compétences qui sont les nôtres, dans la puissance politique qui existe encore aujourd'hui, par rapport aux marges de manœuvre qui sont les nôtres, par rapport à la mondialisation et par rapport à la puissance financière, là où nous pouvons agir, nous devons le faire ensemble. Parce que je crois que Hannah Arendt, qui est une des philosophes à qui je donne la parole dans l'Agora Pierre Mendès France, dit que le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'il se disperse. Et je pense que le vrai pouvoir, c'est faire ensemble.
Encore deux questions publiques, et puis ensuite on passera à la discussion privée, enfin, de...
Tout ce que vous dites me paraît assez séduisant. J'allais vous parler tout de même de la pauvreté, des inégalités sociales. C'est quoi donc la problématique chez vous concernant cette approche? J'imagine que chez vous, il y a aussi des pauvres. Et donc, comment vous essayez de conjuguer cette problématique, quoi? Comment les plus pauvres, les plus modestes participent à la démocratie? Est-ce qu'il y a des démarches différenciées concernant l'accès à la culture, les inégalités à l'école, etc. Merci.
Merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup de soins à construire une épicerie sociale et solidaire où les pauvres, entre guillemets, sont accueillis avec dignité, accompagnés pour qu'ils puissent en sortir. Et on a un taux de sortie de pauvreté absolue, parce que vous savez qu'être candidat à l'épicerie sociale et solidaire, c'est être... avoir 7 euros par jour pour vivre. Si vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas éligible à l'épicerie sociale et solidaire. Donc j'ai souhaité jeter des ponts entre l'épicerie sociale et solidaire et les chèdes, que les chèdes accueillent les habitants, enfin en tout cas les citoyens qui sont à l'épicerie sociale et solidaire, de telle sorte qu'ils puissent aller au resto comme tout le monde. Sur la voie médiane, les manouches qui ne sont pas des gens riches, on a travaillé avec eux sur leur village, qui est super. C'est avec eux et grâce au fonds d'aménagement urbain qui recueille les recettes des communes qui ne font pas de logements sociaux. Grâce à ça, j'ai pu réaliser Voie médiane. L'idée générale, c'est je ne vais pas dire les mêmes droits et les mêmes devoirs parce que ce n'est pas à ce plan-là. C'est accueillir tout le monde dans leur dignité et leur envoyer l'image qu'ils sont en capacité d'eux. Donc jamais dans une sorte de démarche condescendante, avant qu'on arrive en responsabilité, l'adjointe aux affaires sociales avait des boîtes de conserve dans son armoire et distribuait des boîtes de conserve. Donc si la pauvreté, si l'action sociale c'était ça, c'était évidemment un peu peu. Donc l'idée c'est quand même de travailler avec l'assistante sociale du département, et d'ailleurs de ce point de vue-là, elle gagnerait à s'inscrire dans le travail de la mairie. C'est toujours à la fois un accueil, mais aussi une responsabilisation parallèle. Donc voilà, je n'ai pas voulu parler de la question sociale parce qu'on parlait très très longuement. C'est une ville où il y a sans doute autant de pauvres qu'ailleurs. Ce n'est pas une ville qui a autant de pauvreté que la ville-centre. Il se trouve que l'agglomération mulhousienne, la ville pauvre, c'est la ville-centre qui accueille toutes les pauvretés et toutes les misères du monde, d'une certaine manière, avec des difficultés de vivre ensemble. Et pourtant, c'est une ville qui progresse. Et en fait, tous ceux qui sortent de la ville-centre, ils réussissent ce que j'appelle l'ascenseur territorial. Et d'une certaine manière, on n'a pas la grande pauvreté. On a aussi des très riches, mais qui sont pauvres d'esprit, franchement. Et c'est les plus pauvres. C'est des gens qui... J'ai fait une réunion publique l'autre jour, une réunion de quartier. C'est des gens qui habitaient à 100 mètres d'un équipement public dont ils ne connaissaient pas l'existence, mais qui étaient les premiers à râler sur les impôts. Donc, je pense qu'il y a une force parmi les gens modestes qui a un potentiel fort. Et d'ailleurs, je le rencontre dans les journées citoyennes. C'est souvent des gens modestes qui viennent. Et on a fait d'ailleurs des soirées en direction des gens plus modestes à Noël, mais de manière pas visible, parce qu'il n'y a pas aussi une forme de discrimination à mettre en avant. De manière pédagogique, de manière digne, de prendre en compte celles et ceux qui sont aujourd'hui dans une situation modeste.
J'ai créé de la frustration. Une dernière question, et ensuite on continuera à côté.
Une question très brève. Faut-il former les élus à la pédagogie active ? Parce que si on s'en réfère à tout ce que vous venez de dire et aux élus de Lorrain, Michel Dinet ou René Haby, qui ont été des grands hommes politiques, ont tous opté pour les méthodes de pédagogie active. Et on ressent dans tout votre discours, quelque part, ce qui découle de la pédagogie active. Alors, faut-il former les élus à la pédagogie active ?
Alors, on m'a fait l'honneur de faire le discours de commémoration de Michel Dinet un an après son décès à Vannes-le-Châtel, et j'étais très ému, parce que Michel Dinet, c'est comme quelque part un prophète dans la région. Je suis en train de réfléchir à créer une université populaire de la démocratie à Kingersheim, en réseau avec plein d'autres. Démocratie ouverte, l'Institut de gouvernance et d'autres. À Cluny, je sais que mon ami président des communautés communes de Cluny est en train de travailler sur un collège européen de la démocratie. Donc j'aimerais mettre en réseau cette université populaire de la démocratie sera l'université où on parle plus de sens que de programme et plus de démocratie que d'injonction de conquête de pouvoir. Et en fait, ce serait ouvert à des gens qui ont envie d'agir autrement dans des lieux plus désirables, dans les entreprises, dans les collectivités. Et donc, en fait, ça répond aux demandes de plus en plus fortes qui me parviennent pour essayer de faire des modules de formation sur cette question-là. Donc la réponse, c'est cela. Je tiens d'ailleurs à vous inviter dès maintenant, le 6 et 7 octobre de l'année prochaine à Kingersheim. On fera une rencontre des élus en situation, des associations, des mouvements citoyens qui s'interrogent sur quels sont les freins d'une démocratie d'élaboration, comment avancer ensemble, en fait un échange pour partager ce qui fait notre espérance et ce qui fait parfois nos doutes.
J'allais être injuste, il faut ajouter une dernière, mais c'est vraiment la dernière.
Merci beaucoup, monsieur. Dans votre approche de la démocratie, quelle est la marge de manœuvre pour minimiser le chômage ?
Pour minimiser le chômage ? Pour minimiser le chômage ? Il n'y a pas de correspondance directe, surtout dans compétences de maire, si vous voulez. Je ne suis pas un pourvoyeur d'emploi, si vous voulez. Sinon, les employés de la commune et tous les dispositifs qu'on a mis en place avec l'intercommunalité sur sémaphores, Pôle emploi et tout cela. Donc on a travaillé à notre façon pour faire en sorte que les habitants puissent rencontrer des lieux, voire des tiers-lieux, pour qu'ils puissent être entendus, accompagnés pour trouver de l'emploi. Mais en tant que maire, j'ai pas une conjonction particulière à faire entre ce que le mieux décider ensemble et le mieux agir ensemble et la question directe du chômage. Sauf que j'aimerais que dans les entreprises, qu'on ait les accords bilatéraux, mais aussi entre les partenaires sociaux, il y a cet état d'esprit de construire du compromis. Et je trouve qu'il y a souvent des états d'esprit de blocage qui jouent au détriment des salariés. Et donc c'est une dimension différente que le yaka faucon ou l'affrontement systématique, c'est de mettre autour de la table avec la haute idée que le dialogue est plus fort encore que le pluralisme et en tout cas est source d'efficacité. Dans ce sens que l'esprit d'une démocratie partagée peut être mis au service de la lutte contre le chômage.
Merci beaucoup, Jo. Quelle belle générosité pour nous. Donc, ça sera un sommet pour notre UP2V. On en aura d'autres, mais c'est un grand moment. Donc, Jo va se mettre sur une table où on lui offrira aussi à boire, un petit peu à manger,
oui,
puisqu'il a des très bons bouquins là, qu'il Super. Va vous proposer, si c'est pour alimenter notre réflexion et nous rendre mieux agissants.
Je me mets là-bas alors pour les bouquins.
Oui, ça serait mieux. Hein. Et puis donc, sinon, on a un petit buffet là, pour continuer la discussion entre nous. Il y a plein de choses à se dire, on n'épuisera pas le sujet ce soir.
En tout cas, merci pour la qualité de votre écoute. Merci beaucoup.